Bonjour à tous et à tous et bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3, jour 23 de la campagne électorale générale au Québec. Entrevue chargée. Lapsus, journée d'entrevue et épisode d'entrevue. On reçoit 4 candidats avec Marc-Olivier Jacob et Félix Gagné. À tout de suite. Bon matin, messieurs.
Bon midi, Nick. Ouais. Pour toi, c'est peut-être le matin, mais pour moi, c'est le midi.
Hey, même pas, je t'ai levé très tôt ce matin, tu sauras. Blague à part, comment ça va, les gars?
Ça va. Écoute, comme tu l'as mentionné, là, émission très chargée là, cette semaine.
Peux-tu nous énumérer les personnes qu'on accueille en entrevue aujourd'hui, d'ailleurs?
Oui, effectivement. Première entrevue, à 13h15, on reçoit la députée sortante de Saint-François, Mme Geneviève Hébert. Ensuite, à 13h45, on reçoit la candidate de Québec solidaire, Mélissa Généreux, dans Saint-François. Ensuite, à 14h15, on reçoit Zoé Saint-Amand, candidate du Parti conservateur du Québec, ici même dans la circonscription de Sherbrooke. Et on conclut l'émission avec une entrevue qu'on a réalisée, en fait que j'ai réalisée, vendredi dernier, en pré-enregistrement avec la candidate de la CAQ, ici même à Sherbrooke, Caroline Saint-Hilaire. Donc, grosse émission.
Attachez vos trucs, tout le monde. Sinon, jour 23 des élections générales au Québec. C'est d'ailleurs aujourd'hui quand même une date importante. C'est la dernière journée, chers auditeurs et auditrices, que vous avez le droit de changer d'adresse en vue des prochaines élections qui auront lieu le 3 octobre prochain. Donc, on se devait de discuter de cet enjeu-là quand même. Changez votre adresse si vous avez envie et faites vos démarches pour avoir le plus de chances possible d'aller voter ou même de voter tout simplement parce que c'est réellement important. Là.
Effectivement, donc pour faire le changement d'adresse, donc si exemple tu es un étudiant puis que tu veux voter à Sherbrooke parce que tu considères que Sherbrooke c'est ta maison, tu peux te rendre sur le site du directeur général des élections pour faire la demande. Ils vont te demander dans le fond quelques pièces justificatives pour bien vérifier que t'es toi, là. Donc une preuve de résidence avec aussi après ça permis de conduire avec photo là, ou carte d'assurance maladie pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui fait le changement d'adresse. Ou sinon tu peux te rendre directement au bureau du directeur, mais pas directeur général des élections, mais au bureau, dans le fond, de vote, qui sont déjà ouverts, même si le vote par anticipation n'est pas commencé. Donc, tu vas pouvoir changer ton adresse en faisant ces deux démarches.
D'ailleurs, le vote par anticipation commence très bientôt. En fin de semaine, si je ne m'abuse, on dirait que la date m'échappe. Là.
C'est le 23 que le vote par anticipation commence.
Merci Marco. Ce vendredi, le vote par anticipation commence. Si vous avez déjà fait votre choix, allez voter. On le répétera pas jamais assez, mais c'est excessivement important. Non seulement pour nous qui ont une mission de politique, mais qui étudient là-dedans aussi, mais tout simplement parce que pour le bien-être de notre démocratie, de notre province québécoise, faut faire valoir notre droit de vote. Donc, on vous incite fortement à y aller.
Donc, c'est ça. Puis, au niveau de la proportion, là, les jeunes de 18 à 34 ans représentent environ le tiers de l'électorat. Puis aussi, bon, les personnes âgées de 65 ans et plus aussi, c'est le tiers. Donc, si on considère que les jeunes, normalement, ne vont pas voter ou vont moins que les autres tranches d'âge, s'il y a, dans le fond, une proportion de jeunes qui vont voter qui sont égales aux autres tranches d'âge, bien, ça pourrait avoir une signification au niveau du vote exprimé. Donc, puis pour rappeler le vote par anticipation, les dates, c'est le 23 septembre, le 27, le 28 et le 29. Et si tu es sur le campus pendant que tu as des cours, tu peux même voter, il va y avoir des bureaux de scrutin qui vont être installés sur le campus universitaire pour le vote par anticipation, mais aussi pour le 3 octobre, la journée générale des élections.
Merci pour ce tour d'information. Sinon, rapidement, on peut-tu, plateformes de réseaux sociaux, notamment notre chaîne YouTube, vous allez voir apparaître dans les prochains jours une émission spéciale que nous avons tournée hier matin. Bilan de mi-campagne, où est-ce que le panel que nous avons aujourd'hui, moi, Félix, Marc-Olivier, mais aussi notre chroniqueur occasionnel, Eden, qui avait fait plusieurs chroniques avec nous cet été. On avait envie d'enregistrer une émission, tout simplement, où est-ce qu'on allait discuter un peu des bons coups, mauvais coups de l'ensemble des partis. Mais aussi, on a analysé un petit peu le débat ensemble dimanche dernier. Donc, dans les prochaines jours, vous allez avoir accès à cet épisode exclusif. Mais malgré cela, jour 23, les gars, est-ce que depuis hier matin, il y a quelque chose qui a changé en fonction de votre avis par rapport à l'élection, mais tout simplement, est-ce que vous avez un autre élément à ajouter qui a passé ce matin ou tout récemment en rapport avec l'élection?
Ce qui est arrivé ce midi, parce que Marco disait qu'on était le midi, mais on est l'après-midi en fait, là. C'est que Éric Duhaime qui réclame les études sur le pompier à la porte et le troisième lien, qui réclame d'urgence, qui a fait des demandes d'accès d'urgence pour ça.
Ça a sorti ce midi?
Ouais, pas mal, c'est ça.
On n'est pas plus de temps. Quels sont ses propos également par rapport à cet enjeu-là?
Ben, il dit que la CAQ et François Legault auraient politisé le ministère des Transports, entre autres, puis que, justement, les gens ont payé pour ces études, fait que ce serait le fun utile pour la population de les avoir.
Sinon, de ton côté, Marco?
Ben, ce soir, c'est le débat qui va être organisé par la FEUS et le REMDUS qui va avoir lieu, dans le fond, au Théâtre Granada, là, aujourd'hui, ce soir, à 19h, ouais. Donc... population de la vie étudiante de Sherbrooke. Si vous voulez entendre les candidats de la circonscription de Sherbrooke entendre parler des enjeux de la communauté étudiante et de leurs solutions pour les problèmes reliés à la communauté. Donc, allez voir le débat qui va être au Théâtre Granada. C'est gratuit. Puis, il va y avoir Mme Saint-Hilaire pour débattre pour la CAQ, Mme Labrie pour le Québec solidaire, M. Weiss pour le Parti libéral, M. Béribé-Lauzière pour le Parti québécois et Mme Saint-Amand aussi qui va être là. Donc, les cinq candidats vont être là pour débattre.
C'est un grand, j'imagine, en fait. Ben, ce débat est d'une ampleur quand même importante puisqu'on le sait, la population de Sherbrooke, il y a une portion assez significative d'une population étudiante. Donc, d'où, j'imagine, la présence de chaque candidat de la circonscription même au sein de ce débat. Je vais t'en être avec toi, Marco, tu m'as volé j'allais mentionner la même chose, en fait, le débat étudiant de l'Université de Sherbrooke ce soir qui... on se rappelle, toujours une certaine importance à élection après élection. C'est un débat qui est vraiment populaire au sein de la population étudiante. On sait la population étudiante a des enjeux très spécifiques qui peuvent varier de que ce soit d'une institution d'éducation différente d'un autre. Puis à Sherbrooke, on a des enjeux spécifiques. Pour l'élection actuelle. Donc, bien hâte de voir le débat de ce soir. Je ne pourrais malheureusement pas y être, mais je sais pas si toi, t'avais l'intention d'y aller ou quoi que ce soit.
Moi, pour ma part, j'ai un cours et après ça, j'ai une prestation à faire pour un discours, mais sinon, le débat va être diffusé sur les ondes de CFAQ, donc vous allez pouvoir l'écouter en direct à la radio si ça vous intéresse, si vous n'êtes pas apte à vous déplacer sur place. Toujours moyen de l'écouter, soit en version balado, sur appareil mobile ou même en direct à la radio directement.
Je sais pas, messieurs, en introduction, avez-vous un dernier élément à mentionner qui pas nécessairement qui a fait de la manchette tout récemment aujourd'hui ou que peut-être une perception que vous avez changée depuis notamment le débat. Tu sais, on se rappelle le débat des chefs avait eu lieu jeudi dernier et on n'a pas eu l'occasion d'en discuter en ondes en direct ensemble. Si on relance rapidement sur le débat, qu'en dites-vous?
Le débat était bon à surveiller le deuxième cette semaine, là, le débat des chefs jeudi encore.
Qui risque de faire pencher qui risque de changer que beaucoup de perceptions par rapport aux indécis notamment. On sait que le débat est très politisé puis que on se le rappelle jeudi. Je sais pas si t'es allé embarquer là-dessus, Félix, mais les prestations de Gabriel Nadeau-Dubois et Paul Saint-Pierre Plamondon ont notamment été citées et exprimées. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis par rapport à cela.
Oui, effectivement. Et entre autres, tu sais, François Legault, sa performance aurait été mal préparée selon certains analystes. C'est pour ça que jeudi est d'autant plus à surveiller pour savoir s'il va être mieux préparé pour faire face aux autres chefs. Là.
Sur ce, on s'en va en courte pause musicale et au retour, on s'entretient avec Mme Geneviève Hébert, candidate de la Coalition Avenir Québec et députée sortante de la circonscription de Saint-François. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. On s'entretient maintenant avec Mme Geneviève Hébert, candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Saint-François et candidate sortante. Mme Hébert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, tout simplement.
Mais ça fait plaisir.
Pour commencer. Merci, c'est très apprécié. Tout d'abord, d'entrée de jeu, est-ce que, par rapport à votre bilan de mandat, est-ce que, rapidement, il y a des dossiers dont vous êtes fier selon votre, durant le dernier mandat, ou justement, lors de votre dernier mandat, il y a des dossiers qui, justement, vous avez un peu de... Il vous a manqué de temps pour accomplir le dossier à 100% ou quoi que ce soit, et que vous allez retravailler si jamais vous êtes élu aux prochaines élections. Donc, rapidement, par un rapide bilan de mandat.
Bien, vous savez, quand j'ai été élue en 2018, il y avait des dossiers qui étaient tablettés. Donc, on parle du projet du Centre Mère-Enfant et l'agrandissement de l'urgence de Sherbrooke sur le site Fleurimont. On avait des projets par rapport au centre de diffusion à Sherbrooke qui manquaient de financement. Souvent, ces projets-là étaient comme mal attachés dans leur financement et mes interventions ont permis qu'on puisse les réaliser. Il y en a qui sont... qu'ils vont se réaliser futurs, mais il y en a qui sont en cours de réalisation, dont le Centre Mère-Enfant, que j'en suis très fière. Il y a d'autres projets, d'autres annonces, d'autres engagements que j'avais pris, qu'on parle d'une petite école à Compton, d'un agrandissement, côté très humain, hein, une communauté qui est tricotée serrée, qui veulent garder les enfants dans leur milieu, mais que, selon certains programmes du gouvernement, ben ils ne cadraient pas. Donc, on devait déménager les enfants par autobus pour aller à des écoles aquatiques. Mais j'ai réussi à sensibiliser le gouvernement de dire non, il faut agrandir cette école-là. C'est un milieu qui se développe. C'est toute la communauté qui s'est mobilisée positivement pour l'école. Et finalement, on a eu les sommes et la construction devrait débuter bientôt. Donc, ce sont souvent des projets, des demandes, des engagements qui n'avaient pas de voie de passage que j'ai réussi à trouver. Donc, ça, j'en suis très fière.
Donc, dans la manière que vous parlez, vous avez votre sensibilisation avec la communauté, notamment de Compton. Est-ce que, justement, ça fait de vous une candidate de terrain, notamment? Est-ce que vous vous considérez comme une candidate de terrain?
Oui, je suis une candidate de terrain parce que je suis toujours sur le terrain à la rencontre des gens, à la rencontre des acteurs, des municipalités, quand on parle des organismes, des entreprises. Alors, ce qui fait que ça permet aux gens de vraiment de prendre le pouls de la population, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Puis là, maintenant, après ça, ben, c'est mon rôle à moi de ramener ça à Québec et de descendre les sommes que notre gouvernement s'engage à distribuer dans la communauté.
On peut le voir, là, votre circonscription, c'est quand même une circonscription très vaste, là. Il y a à la fois un côté plus urbain avec Fleurimont, Lennoxville, puis un côté plus ruraux avec des municipalités comme Compton. Comment on fait pour, en fait, juguler ou jongler avec deux types de réalités complètement différentes pour certains citoyens de votre circonscription?
Bien, l'approche est différente. Hein? C'est sûr et certain que quand on parle des petites communautés, ils ont besoin de voir leurs députés sur le terrain, dans les activités. C'est là qu'on a les plus belles conversations. Je dirais même que je mets la main à la pâte. Alors, j'en ai servi du blé d'Inde, fait des hot dogs, laver de la vaisselle, desservir les tables. C'est quand on est près des gens sur le terrain qu'on connecte avec la réalité. Ils me parlent de leurs problèmes de médecin de famille, de leur inquiétude de déménager leurs enfants d'une école à une autre. Ils me parlent de leur de la réalité de la main d'œuvre, comment c'est difficile. Alors quand on s'implique sur le terrain, autant que ça soit rural ou urbain, si on fait vraiment du vrai terrain là, donc de mettre la main à la pâte avec nos organismes, de s'impliquer bénévolement, c'est comme ça qu'on entend la réalité. Puis c'est là qu'on peut gouverner et faire la politique différemment, faire une politique de changement.
Vous avez mentionné certains dossiers dont vous en êtes fiers et qui se sont accomplis. Est-ce que dans le dernier mandat, il y a des dossiers justement que vous auriez aimé que ça se passe mieux et plus rapidement? Et quels sont ces dossiers que justement, si vous gagnez le 3 octobre prochain, dès le 4 octobre, vous retravaillez là-dessus pour... améliorer la circonscription de Saint-François?
Ben, je vous dirais, la santé, hein, c'est un enjeu majeur. On l'a vu avec la pandémie, comment que ça s'est, compliqué, puis comment qu'on a perdu aussi certains services, dont notre urgence à Quaticook, qui est une réalité pour une petite communauté. Les soins de santé, la proximité, c'est important. Donc, c'est de réfléchir à savoir comment que, dans nos décisions, dans notre plan de santé qui a été déposé avec Christian Dubé, le ministre de la Santé, comment qu'on va être capable de ramener ça et de l'adapter au centre hospitalier de Quaticook. Mais il n'y a pas juste ça. À Sherbrooke aussi, les gens ont besoin d'un médecin de famille. On l'a vu, le CMU a fermé aussi, donc qui est un soin de médecine d'urgence. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre des mesures et de s'assurer que le CIUSSS, tous les acteurs sont autour de la table pour qu'on puisse mettre en place des formules qui fonctionnent. Puis maintenant, on a réalisé que ça ne passe pas juste par le médecin. Il faut avoir un décloisonnement des professions. Il faut mettre plusieurs acteurs autour de la table pour offrir le bon soin de santé au bon moment à la bonne personne.
Vous avez parlé de l'exemple de Quatico, qui est aussi un enjeu dans cette région, l'enjeu des ambulanciers aussi, avec notamment le triste décès de cette personne à Foresta Numina. Est-ce que, comment vous, de votre côté, vous voulez changer cette situation-là, ou est-ce que, bon, on le sait, il y a un manque d'ambulanciers, puis même cette journée-là, d'ailleurs, c'est seulement, il y avait seulement une ambulance, qui était sur le terrain pour toute la région de Quaticook. Que répondez-vous à cette triste constat, mais aussi quels sont vos engagements par rapport à cet enjeu-là?
Bien, dans cette situation-là, là, à chaque fois, j'envoie mes condoléances à la famille, parce que ça a été un moment qui a dû être très difficile pour eux. Par contre, il faut savoir que dès le début de 2018, j'avais été mis en contact avec les paramédics. Je les avais rencontrés en campagne électorale et je me suis assurée de convertir des horaires de faction en horaire à l'heure. Donc, il y a une ambulance qui est là 24/7, toujours à l'heure. Il y a une autre ambulance de jour aussi, mais il y a une ambulance de soir et de nuit. Et c'est cette ambulance-là qui était comme en horaire de faction et qu'on a converti. On s'est assuré avec le CIUSSS qu'elle soit convertie à l'heure temporairement. Je sais que c'est ponctuel, mais le ministère de la Santé a donné une aide financière au CIUSSS justement pour qu'il puisse mieux gérer la desserte ambulancière quand il y a des lacunes. Puis on s'entend qu'avec la fermeture de l'urgence de Quaticook, ben c'est ce que ça allait apporter. Donc le CIUSSS est très conscient de cette problématique-là et s'est assuré qu'on puisse avoir une deuxième ambulance de soir. Donc, il y a plusieurs actions qui sont posées. Moi, je m'assure que les sommes continuent à arriver, puis de m'assurer aussi de pouvoir convertir éventuellement une deuxième ambulance.
Justement, vous parlez du nombre d'ambulances. Dans ce contexte très précis de ce triste décès, il n'y en avait seulement une sur le terrain. Dis-moi, je me trompe, mais dans cet enjeu-là, même dans une région quand même assez grande de Quaticook, seulement deux ambulanciers en tout temps, 24/7, si je ne m'abuse, pourquoi ne pas ajouter d'emblée plus d'ambulances? Est-ce que c'est justement un dossier de pénurie de main-d'œuvre ou question d'autres enjeux que, justement, la population sont peut-être pas au courant de cette réalité-là?
Il y a des études qui sont faites, il y a des attributions en fonction du nombre du personnel, les soins de santé et tout. Puis présentement, il y avait seulement qu'une ambulance qui était exigée. Nous, parce que l'urgence, elle est fermée de soir et de nuit, on a décidé d'ajouter une deuxième ambulance avec le CIUSSS de concert et le ministère, ça a été octroyé de pouvoir avoir le financement pour cette deuxième ambulance-là. Mais faut savoir que il y a différentes études qui sont faites en fonction de la couverture. Puis quand il manque une ambulance, comme qu'est-ce qui est arrivé l'autre jour à Foresta Lumina, il y a un plan de contingence qui est mis en place là. C'est pas parce qu'il a manqué de monde un soir une personne que Quaticook qui était en découverture. Non, il y a un plan de contingence qui a été mis en place. Il y avait une assurance qu'il y aurait une autre ambulance qui viendrait si jamais il y avait un problème, mais là, c'est l'enquête du coroner qui va déterminer qu'est-ce qui s'est passé réellement, puis qui va étudier. Puis, suite à ça, bien, je vais m'assurer que les recommandations soient mises en place pour qu'on assure nos services en soins de santé à Quaticook.
Un autre enjeu qui, surtout dans le contexte actuel, est relativement important, la situation des aînés et surtout des résidences pour personnes âgées. On le sait, lors de votre mandat, il y a eu des résidences pour personnes âgées qui ont fermé, notamment le domaine Fleurimont, le Bel Âge de Quaticook et le Villa du Roi dans l'est de Sherbrooke. Il y a aussi le dossier du Faubourg Menassienne, mais qui est une autre situation. Est-ce que peut-être on va pouvoir en discuter tout à l'heure? Est-ce que justement vous vous sentez, dans un certain sens, responsable du dénouement de ces dossiers-là?
Du dénouement de ces dossiers-là. Pouvez-vous m'expliquer un peu plus? Parce que là, ce que vous me parlez, c'est que si je me sens responsable de la fermeture des résidences...
Pas responsable, mais dans l'optique où est-ce que vous représentez la population de Saint-François. Pour à ces pertes-là de résidences pour personnes âgées, il y a quand même un certain enjeu où est-ce que ces personnes-là, surtout dans une situation de crise du logement, faut quand même qu'ils trouvent une solution rapidement. Non pas que vous êtes responsable de ces fermetures-là, pas du tout, mais que dans une mesure où est-ce que c'est quand même votre circonscription, Puis faut, vous avez été sur le terrain, vous dites que vous êtes une candidate de terrain, donc.
Voilà. Alors c'est une excellente question. Je suis une députée de terrain, je suis sur le terrain. Donc dès que j'ai été qu'on m'a mis au courant de ce qui allait se passer au domaine Florimont, donc de la propriétaire, je me suis assurée qu'elle avait eu toute l'aide nécessaire avec le CIUS. Notre gouvernement a posé une action concrète au mois d'avril, donc avec ce qui est pour nos aînés, là. Donc, on a une loi qui a été déposée et cette loi-là donne accès à un plan de cessation. Donc, une résidence pour aînés maintenant a l'obligation de donner un 9 mois dans un plan de, avec un plan de cessation, puis est accompagnée par le SLUS. Donc, quand il y a eu la rencontre avec la propriétaire pour l'annoncer aux résidents, là, dites-vous qu'il y avait 15 intervenants du SLUS qui étaient sur place pour rassurer les gens, pour leur attitrer quelqu'un s'il n'y avait pas de travailleur social, pour être capable de les rediriger. Ils ont 9 mois pour se préparer. Il y en a qui veulent passer Noël là, il y en a qui veulent se rendre à Pâques, ça va être possible. Ils vont être accompagnés, puis on va être capable de les relocaliser. Ça, c'est un engagement de notre gouvernement, parce qu'il y a d'autres résidences qui ont fermé sauvagement, puis que là, les gens avaient quelques jours pour se revirer de bord, puis des fois, ils venaient même de déjà payer leur loyer, puis ils ne pouvaient pas avoir les sommes. Donc, ces injustices-là, ces traumatismes-là, on veut plus qu'ils se reproduisent. Donc, c'est pour ça qu'on a posé une action pour protéger nos aînés, donc avec la loi. Ensuite, ben ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a peut-être d'autres formes d'hébergement, dont les soins à domicile. Notre gouvernement veut investir, il a pris un engagement de 900 millions pour maintenir les gens le plus longtemps possible et de prévenir aussi tout ce qui pourrait les amener à éventuellement à quitter leur domicile pour aller en résidence pour aînés. Donc, il y a des actions qui se posent, ne sont pas en opposition. Il faut développer du logement, mais il faut aussi garder les gens le plus longtemps possible puis leur permettre de le faire.
Par rapport justement au domaine Florimont, on se rappelle, la propriétaire Mélissa Savoie l'a mentionné ouvertement que c'est dû aux nouvelles restrictions, aux normes gouvernementales, que avec notamment aussi avec l'inflation, la hausse des prix, etc., qu'elle a dû fermer ses portes. Puis elle a mentionné aussi, ben je peux pas faire payer cette perte-là, cette hausse du coût de la vie aux locataires présents et présentes dans l'établissement. Dernièrement, l'enjeu aussi de reléguer les résidences pour personnes âgées à des OBNL, des organismes à but non lucratif. Est-ce que, selon vous, ça pourrait être une bonne solution pour justement faire en sorte que ces personnes résidentes restent au même endroit et que, pour le gouvernement, ça leur permet qu'ils n'aient pas de délocalisation trop grave ou même qui pourrait mettre des personnes dans l'embarras. On le sait que dans l'enjeu du domaine Florimont, la propriétaire s'est pris d'avance au moins pour préparer les résidents à trouver une solution à long terme. Mais en général, êtes-vous d'accord pour justement que ces résidences pour personnes âgées deviennent une OBNL ou même des organismes publics pour gérés par le gouvernement notamment?
Je vous dirais que avec la loi qui a été adoptée en avril 2022, toutes les résidences dorénavant ont le devoir de faire un plan de cessation pour si envisagent cesser leurs activités. OK, parce que sinon il va avoir des contraintes financières, des amendes sévères, parce qu'on veut plus que ça se reproduise, on veut donner du temps. Alors la propriétaire du domaine Florimont a pris cet engagement-là, puis elle est allée chercher de l'aide, et je la félicite d'avoir été au CIUS, d'être bien accompagnée, puis d'avoir s'assuré qu'il y ait tous les intervenants, puis le CIUS aussi a fait sa part. À savoir si ce soit une OBNL qui reprenne en charge ou que ce soit une coopérative ou quoi que ce soit, faut savoir quel type d'hébergement qu'on veut aussi. Parce qu'une résidence pour aînés, qui a des préposés aux bénéficiaires, qui a des cuisinières et tout, est-ce qu'une OBNL est prêt à gérer tout ça aussi? Il y a des questions à se poser. Donc moi, je peux pas, en tant que gouvernement, on peut pas imposer que ce soit une OBNL ou quoi que ce soit si un propriétaire d'une résidence privée décide de faire le choix de cesser ses activités. Faut savoir que la propriétaire, elle a été accompagnée pour la subvention pour tous ses gicleurs. Ça, c'est moi-même qui l'ai accompagnée là-dedans. Donc, plusieurs domaines, que ça soit pour les assurances, que ça soit pour il y a eu aussi pour le personnel pendant la pandémie, elle a eu des bonifications. Il y a de l'aide que le gouvernement a donnée à tous les résidences, pas juste le domaine Florimont. Je me souviendrai très bien aussi d'un autre dossier à Bois-Castel qui avait un problème avec d'aller chercher les subventions pour les giclards parce qu'ils avaient fait leurs travaux un petit peu avant que le gouvernement offre les subventions. C'était la même chose au domaine Fleurimont. J'ai travaillé le dossier puis ils ont réussi à avoir leur somme pour que ça soit équitable envers tous. Donc, faut savoir qu'on les accompagne, mais ils ont des choix. Ce sont des propriétaires d'entreprises. Donc, s'ils font le choix de cesser leurs activités, nous, comme gouvernement, on devait se doter d'une loi qui va permettre un plan de cessation sur 9 mois. Puis après ça, ben s'il y a d'autres organismes qui veulent racheter ou quoi que ce soit ou reprendre les activités, ben là, ça sera à eux de le faire. Puis nous, on est toujours au rendez-vous pour écouter la population puis les accompagner s'ils ont besoin d'aide financière.
Vous parliez, Mme Hébert, que la propriétaire était accompagnée dans le processus puis que tout était fait en fonction de la loi puis que c'est légal. Mais c'est pas aussi un devoir du gouvernement de prendre soin des aînés puis en fait de leur éviter certaines charges qui pourraient leur causer du stress, tout ça, comme en ce moment avec le dossier du domaine Fleurimont. Mais c'est pas le devoir aussi du gouvernement d'accompagner les personnes âgées aussi pour ce qu'il leur reste à vivre, parce que c'est quand même des gens qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui dans lequel on peut vivre.
Ben, je vous dirais qu'on est un gouvernement qui est à l'écoute parce que c'est plus de 2 milliards dans le dernier mandat qu'on a investi pour les maintiens à domicile, pour aider. Au dernier budget, on a augmenté l'aide pour le soutien à domicile d'une personne en perte d'autonomie d'au-delà de 9 000 $ et de 7 000 $ pour une personne qui est semi-autonome. Donc, il y a des aides du gouvernement qui sont là. Dans notre plateforme électorale, on a le bouclier là qui va venir donner 2 000 $ pour les personnes qui sont à revenus modestes, nos aînés de 70 ans et plus. On a une aide ponctuelle pour toute la population qui a des revenus en bas de 100 000 $, parce qu'on s'entend que la classe moyenne, maintenant, les salaires ont monté en fonction du coût de la vie qui augmente. Donc, le gouvernement est au rendez-vous pour aider les gens depuis qu'on regarde avec l'inflation, qu'on regarde depuis le dernier mandat. On a déposé, on est le premier gouvernement qui a déposé une loi sur une politique sur la proche aidance. Parce que le maintien à domicile, c'est pas juste une personne, ça l'englobe toute sa famille autour d'elle. Donc, que ce soit une personne qui habite seule, mais qu'elle a besoin d'avoir des proches aidants qui viennent à l'occasion la visiter, toute la famille est mise à contribution. On a un choix de société à se décider. Qu'est-ce qu'on veut faire dorénavant? Faut pas mettre l'hébergement en opposition au maintien à domicile, mais il faut vraiment, en tant que société, réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour nos aînés. Parce que là, on l'a vu avec la pandémie, il y a certaines lacunes que ça a été mis en lumière. On a des aînés qui sont plus autonomes, donc qui ont besoin d'hébergement, puis on a au-delà de 300 places qui sont manquantes présentement en Estrie. Donc on n'a pas le choix de développer de l'hébergement pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, mais parallèlement, on doit aussi développer les soins à domicile, puis l'hébergement pour nos aînés qui sont à revenus modestes. Donc on parle du logement abordable, du logement social. Il y a plusieurs champs d'action que le gouvernement est en action puis qui va continuer de l'être.
Vous avez glissé vos engagements par rapport aux soins à domicile. On sait que, notamment en Estrie, c'est un enjeu quand même relativement important où est-ce qu'il y a une immense demande et on n'est pas capable d'offrir ce service-là à tous ceux qui le voudraient. Selon vous, pourquoi prioriser les services de soins à domicile au détriment des, par exemple, investir dans les résidences pour personnes âgées, notamment? Selon ce que vous nous dites, c'est là où est-ce que la CAQ investi massivement dans la campagne, notamment dans vos promesses, seulement à titre d'informatif pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, là, notamment.
Ben, je pense pas qu'on doit les mettre en opposition ou prioriser plus un que l'autre. On doit vraiment les déployer également en fonction des besoins des communautés. Il y a certains milieux que c'est plus les soins à domicile dans certaines régions. Dans d'autres régions, ça va être vraiment de l'hébergement qui est manquant. Donc, c'est vraiment les deux qu'on doit mettre déployer également. Puis de répondre. En réalité, il n'y a pas un modèle unique au Québec. Chaque région a sa réalité. Chaque région a son indice de vieillissement de la population. Donc, le député qui est en fonction doit s'assurer que ce qu'on décide à Québec et que l'argent qui descend soit cohérent avec les besoins de sa communauté. Et ça prend un député sur le terrain. Puis c'est ce que je fais depuis 4 ans.
Vous en avez glissé un mot, excusez-moi, dans votre réponse précédente, du bouclier anti-inflation. Que vous proposez. Là, on parle d'un chèque de soit de 400 $ ou de 600 $, tout dépendamment des revenus. Puis aussi, bien évidemment, bon, de la baisse du 2000$ que vous parlez pour les aînés. Bon, évidemment, on sait que l'inflation, ça touche toute la société, puis beaucoup de gens qui sont dans la classe moyenne, comme vous l'avez mentionné. Mais le fait que la Banque du Canada hausse les taux d'intérêt, puis que, pour en fait contrer l'inflation, puis que vous promettez des baisses d'impôts ou que vous donniez des chèques, c'est pas une mesure contradictoire si on monte le taux d'intérêt de la Banque du Canada pour empêcher l'inflation, mais qu'on donne de l'argent dans les poches des contribuables, mais qui va être dépensé. Donc, va peut-être accélérer même l'inflation.
Ben moi, je vous dirais que les gens, ce qu'ils veulent présentement, c'est d'avoir de l'air à respirer, parce que présentement, on s'entend, l'inflation est difficile sur le portefeuille des Québécois. Que ça soit pour l'épicerie, que ça soit pour le logement, que ça soit pour se déplacer. Moi, je pense pas qu'on doit imposer des taxes aux citoyens. Je pense plus qu'on doit les aider financièrement. Puis, notre gouvernement est dans l'action pour les aider. Donc, depuis la dernière mise à jour économique, il y a eu de l'aide ponctuelle, autant pour les personnes à faible revenu, pour nos aînés. On a bonifié le soutien aux aînés aussi, qui est parti de 411, puis que là, nous, on veut le rendre jusqu'à 2000$. On a remis de l'argent dans les poches de tous les Québécois qui gagnaient de 100 000 et moins. Mais on s'entend, là, dites-vous, les parents... une maman qui est monoparentale, même si elle gagne 80 000 $ puis qu'elle a 3 enfants, puis qu'elle a sa voiture, les enfants ont des cours, tout monte pour elle aussi. Donc, elle avait besoin d'aide. C'est pas juste les personnes à faible revenu qui gagnent en bas de 30 000 $. Donc, on a besoin d'aider toutes les couches. Puis notre gouvernement, dans le dernier mandat, par année, c'est plus de 3 milliards de dollars qu'on a remis dans les poches en baissant les taxes scolaires, en augmentant les pour les enfants, les allocations familiales. Donc, il y a plusieurs mesures que notre gouvernement a mis en place pour justement aider. Puis je pense que si vous avez tous un permis de conduire, vous avez dû être très heureux lors de votre renouvellement si vous n'avez pas perdu de points de démérite.
Non, mais pour le permis de conduire, ça, c'était parce que pendant la pandémie, il y a eu, dans le fond, moins d'accidents sur la route à cause du couvre-feu, tout ça, puis qu'il y avait un certain surplus du côté de la société de l'assurance automobile, donc il y a eu une baisse des permis de conduire.
Mais c'est de l'argent qu'on a remis aux gens, puis c'est de l'argent qu'ils n'auront pas à déplacer. Le gouvernement aurait pu prendre cet argent-là puis l'investir ailleurs, mais non, on sait comment que c'est difficile présentement. Les gens ont de la difficulté à boucler leur fin de mois, donc il faut donner ce petit coup de pouce-là pour les aider. Atténuer l'inflation.
Rapidement, on sait un enjeu fort important pour les étudiants et étudiantes, c'est l'environnement. Vous et vos collègues de la Coalition Avenir Québec, Mme Saint-Hilaire et M. Bachand, vous avez critiqué l'attitude, notamment d'un parti comme Québec solidaire, comment il vendait l'élection de la dernière chance par rapport à la crise climatique, comme ils l'entendent. Vous, de votre côté, vous visez plutôt une attitude plus positive, ou est-ce que on aime mieux amener des solutions plus réalistes pour contrer les changements climatiques? Que vous voulez vous dire par là? Comment vous pouvez synthétiser votre vision de l'enjeu climatique, notamment dans Saint-François?
Vous savez, quand on est un gouvernement qui est au pouvoir, puis qui pourrait revenir au pouvoir, il faut être réaliste dans nos annonces, parce qu'on a le devoir de réaliser les choses qu'on dit. Moi, je suis fière de dire que je fais exactement ce que je dis. Alors, notre gouvernement, les actions qu'on a prises présentement et qu'on va prendre dans le futur pour diminuer les gaz à effet de serre, pour être capable d'enlever le plus possible d'automobiles à essence, puis les interdire la vente en 2035, qu'on puisse aussi convertir nos autobus à des autobus électriques. On s'entend qu'on est en Amérique du Nord, là, c'est plus de 43,8 milliards qui vont être investis pour convertir nos autobus à essence électrique. Puis il faut savoir aussi qu'on est le premier gouvernement à interdire l'exploitation des hydrocarbures. On parle du gaz, du pétrole. On va protéger plus de 17 % de notre territoire d'air protégé. On veut agrandir les parcs. On veut donner accès à la nature. On veut augmenter les redevances sur l'eau. On est un gouvernement qui prend des actions puis qui va les réaliser. Puis je suis très fière de savoir qu'ici à l'Université de Sherbrooke, il y a un professeur qui a été interviewé dernièrement sur tous les engagements que tous les partis avaient pris. Et ce professeur, M. Godbout, a dit que la CAQ, c'était le parti qui avait le plus de possibilités de réaliser ses engagements. On est un gouvernement responsable, pragmatique, réaliste et non idéaliste.
Dans les dans votre vision, après les paroles que vous venez de nous mentionner, est-ce qu'il y a des enjeux justement plus concrets à Saint-François pour les résidents et résidentes de votre circonscription, ou est-ce que la Coalition Avenir Québec, si elle est élue, au lendemain du 3 octobre, vous allez pouvoir amener des situations concrètes et pragmatiques, justement, dans la circonscription? En avez-vous pour nous aujourd'hui?
Oui, ben moi, je vous dirais qu'il y a plusieurs discussions présentement sur le terrain, qu'on parle avec nos agriculteurs de la biométhanisation, qui se parle avec l'UPA, certains acteurs dans la MRC de Coaticook, qu'on parle du solaire, des éoliennes. Ce sont des moyens de développer de l'électricité, parce qu'on le sait, si on veut déployer un réseau électrique, si on veut convertir les bâtiments présentement qui consomment du pétrole, du gaz naturel ou quoi que ce soit, puis qu'on veut les convertir à l'électricité, ben ça va prendre d'autres sources d'électricité que qu'est-ce qu'on a présentement. Puis on a une responsabilité, étant donné qu'on est les chefs de file en Amérique du Nord pour consommer et émettre le moins de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'il faut aussi aider nos voisins d'à côté à pouvoir changer leurs pratiques, parce que dans le ciel, il n'y en a pas de frontières. Les gaz à effet de serre, on aurait beau pas en émettre du tout, mais tout autour de nous, s'ils polluent autant, ça nous aidera pas. Donc, il faut aider aussi les voisins, donc être capable de faire des contrats, comme on a fait avec New York, qui va enlever l'équivalent de plus de 500 000 voitures sur le chemin, des millions de tonnes de gaz à effet de serre qui ne seront pas diffusées dans l'atmosphère parce qu'on a réussi à vendre notre électricité dans l'État de New York. Donc, il y a plusieurs mesures qu'on doit faire, autant ici dans Saint-François, en tant que gouvernement, à l'échelle provinciale, puis même aider nos voisins d'à côté à changer leurs habitudes.
On va conclure l'entrevue sur cette question-là. Vous parlez justement des contrats d'Hydro-Québec là, qui ont été signés pour exporter notre électricité. Il y a un rapport d'Hydro-Québec là, qui est sorti il y a quelques semaines qui mentionnait que d'ici quelques années, on allait manquer d'électricité. Qu'est-ce que la Coalition Avenir Québec propose justement pour augmenter notre capacité énergétique, pour soit être capable de se fournir nous-mêmes en électricité, ou même continuer à exporter l'électricité en Amérique du Nord pour, dans le fond, aider nos voisins qui sont prêts avec des technologies désuètes, là, si je peux dire ainsi.
Oui, c'est ça. Alors, on a différentes... Il y a une étude qui a été demandée à Hydro-Québec pour voir comment, avec l'hydroélectricité, est-ce que ça pourrait passer par des petites centrales? Est-ce que c'est une grosse centrale? Il y a une étude qui est demandée. Il n'y a pas de décisions qui sont prises, mais une étude qui est demandée. À part de ça, ben, il y a tout le développement des éoliennes. Les coûts ont beaucoup baissé par rapport au développement des éoliennes. Alors, moi, je suis allée en mission à l'extérieur du pays cet été, et j'ai vu que certains pays du Haut-Désert avaient énormément d'éoliennes, puis c'était ça qui était le moteur de leur énergie. Donc, est-ce qu'on pourrait en développer plus? Je sais qu'il y a une volonté de ce côté-là. Ensuite, j'ai parlé tantôt de la biométhanisation. C'est autre chose qu'on est en train de regarder à développer. Donc, on doit être un gouvernement dans l'action. Puis, il y a tout aussi rendre nos maisons plus éco-énergétiques possibles, d'aider les citoyens à pouvoir mieux utiliser leur électricité, leur énergie à la maison. Il y a le solaire aussi ici, justement à l'université. On est innovant là-dedans par rapport au solaire. Alors, toutes les recherches vont être faites, les études pour optimiser le maximum notre électricité, puis pouvoir justement être capable aussi de devenir un moteur pour aider les autres à changer leurs habitudes.
Madame Hébert, merci infiniment pour votre temps d'entrevue et on vous souhaite une excellente fin de campagne.
Ben, ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation.
Et nous, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on s'entretient avec d'autres candidats lors de notre émission. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Maintenant, on s'entretient avec la candidate de Québec solidaire dans Saint-François, Mme Mélissa Généreux. Mme Généreux, bonjour.
Bonjour.
Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation.
Ah ben écoute, ça me fait vraiment plaisir.
On est désolé, on commence à trouver un peu plus en retard là, que d'habitude, là, parce qu'il y a eu des problèmes techniques au niveau du téléphone, mais on va discuter avec vous, Mme Généreux, premièrement. Ben, de la plateforme santé de Québec solidaire, quand que je regarde votre plateforme, c'est inscrit que vous voulez un réseau de CLSC ouvert 24/7, qui soit accessible pour tous, puis créer une porte d'entrée, dans le fond, pour permettre aux Québécois, aux Québécoises d'accéder au réseau de santé et aux services sociaux. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, Il me semble que le Parti québécois propose la même chose. En quoi que cet aspect-là de votre plateforme se différencie du Parti québécois?
Oh, ben, je pense qu'on ne se cachera pas qu'il y a quand même certaines ressemblances et je pense que je vois pas du tout une menace. Je vois qu'on a eu des bonnes idées et qu'on n'est pas les seuls à avoir eu ces idées-là. Maintenant, reste à voir qui l'a eu en premier, mais moi, je suis pas là pour débattre de ça, mais vraiment pour dire, c'est vous du compte, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire que les CLSC, c'est pas une invention, là, c'est pas une nouvelle affaire qu'on essaie de mettre sur pied. C'est plutôt de dire que, puis moi, je sais que j'étais dans le réseau depuis quand même plusieurs années, puis ça marchait très bien, les CLSC. Puis là, tranquillement, ben on a déshabillé un peu les CLSC pour essayer de mieux garnir les GMF, les groupes de médecine de famille. On a enlevé les infirmières, on les a envoyés là, les nutritionnistes, psychologues, travailleurs sociaux. Bien qu'aujourd'hui, nos CLSC fonctionnent vraiment pas de façon optimale. Puis nos GMF non plus, parce que vous savez, tout le monde sait que c'est difficile d'avoir accès aux GMF. Ça, c'est si on a la chance d'être inscrit. Et encore là, c'est difficile de réussir à voir son médecin ou un autre professionnel, même quand on est inscrit. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est rapatrier toutes les ressources pour vraiment les centrer sur les CLSC en se disant qu'il n'y a pas besoin d'avoir une inscription. C'est pas besoin d'avoir gagné à la loto là, des GMF. Vous avez un code postal, vous avez un CLSC qui a été attiré. Puis, il n'y a pas d'histoire de « Ah, ben est-ce que je vais réussir à voir ou pas quelqu'un? » Il y a aussi ça très très intéressant dans la plateforme de Québec solidaire, c'est de dire que ce n'est pas juste le CLSC, mais c'est le 8-1 qui devient la vraie porte d'entrée. Donc, quand vous appelez au Info Santé, là, le 8-1, au lieu de juste vous faire dire « Ah, tu devrais peut-être aller à l'urgence », nous, ce qu'on dit, c'est que le 8-1, on va rehausser un peu les services de manière à ce que quand tu appelles, tu te dis « Garde, voici mon problème ». Là, la personne au téléphone, qui est, mettons, une infirmière, ben, est capable de prioriser ton besoin. Tu dis, regarde, toi, là, c'est peut-être pas à l'urgence que tu as besoin d'aller, mais je vais m'assurer que quelqu'un du CLSC te rappelle demain parce que tu as besoin d'être vu dans la prochaine semaine. Tu te voyais, donc ça, là, cette combinaison-là de 8-1 rehaussé qui est en lien direct avec le CLSC de manière à ce que tu n'aies pas à raconter toujours ton histoire à 4-5 personnes différentes, c'est vraiment ça la vision qu'on a à Québec solidaire.
Est-ce qu'on peut dire que la place que vous voulez, dans le fond, remettre au CLSC, puis la ligne 8-1 que vous parliez, c'est une manière de prévenir les choses pour décharger le système de santé en ce moment qui est quand même surchargé là, un peu partout dans la province?
Mais c'est totalement ça. Parce qu'en ce moment, là, on a le nez collé trop proche de l'hôpital puis de l'urgence. On dit, mon Dieu, ça déborde à l'urgence, ça déborde dans les hôpitaux. Donc, le problème doit être là, puis les solutions doivent être dans les hôpitaux. Mais non, c'est ça l'affaire. La raison pour laquelle ça déborde à l'urgence, c'est parce que les gens savent plus trop à quelle porte cogner. Puis, bien, évidemment, il y a personne qui a vraiment le goût d'aller à l'urgence, sachant très bien qu'ils risquent d'attendre plusieurs heures. Donc, on vit avec notre bobo, puis on attend. Mais des bobos qui auraient vraiment gagné à être vus avant, là, quand, je sais pas, un mot de dos qui empire, ou je sais pas, j'ai mal à l'oreille, j'aurais dû être vu avant. J'ai mal à l'âme aussi. Il y a beaucoup de gens qui se pointent à l'urgence, qui en viennent avec des idées suicidaires assez sérieuses, alors que ben, c'est probablement pas d'hier là, qu'ils souffrent, puis que s'ils avaient pu parler à quelqu'un beaucoup plus tôt dans leur processus, ils n'auraient probablement pas eu à aller à l'urgence. Donc, c'est non seulement de désengorger les urgences en donnant la chance aux gens d'être vus un peu plus tôt dans leur processus de maladie, mais moi, je me dis aussi en termes de qualité de vie, c'est pas le fun là, d'avoir un problème, puis de plus savoir à quelle porte cogner, puis d'attendre que ça soit trop grave avant de pouvoir recevoir de l'aide. Je trouve que c'est comme pas acceptable en 2022 de vivre au Québec et de pas avoir ce type de service-là.
Vous avez mentionné justement là, que à l'urgence, souvent des problèmes. En fait, il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale qui se retrouvent à l'urgence. On sait que souvent, ben, les personnes qui répondent à ces appels-là, c'est les policiers, puis qui n'ont pas nécessairement la formation pour, dans le fond, traiter ces cas-là. Puis c'est surtout pas leur responsabilité. Chez Québec solidaire, qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour décharger les policiers de ce fardeau-là?
Oui, bien, puis exactement. On le voit un petit peu moins à Sherbrooke, quoique déjà, on a certains indices de la montée de la violence qu'on voit, entre autres, là, à Montréal. Puis c'est un réel enjeu parce que, dans un sens, lorsqu'on sait qu'il y a une bonne proportion des appels au 911 puis vers le corps policier ou des interventions qui sont plus liées à des crises, on va dire, plus psychosociales ou à des gens. Tu sais, quand je dis santé mentale, moi, je pense pas qu'il faut vraiment tout le temps imaginer quelqu'un qui est en épisode de psychose, de schizophrénie. Là, tu sais, ça peut être un débordement de trop de colère, de trop d'anxiété. Puis là, on fait, ça déborde, puis ça peut sortir avec des comportements peut-être moins acceptables publiquement, puis des chicanes, puis des conflits. Bon, mais tout ça, je me dis, sais, pendant que, un peu comme ce que vous dites, que pendant que les policiers sont interpellés parce que là, il y a un désordre public ou il y a des gens qui appellent parce qu'ils sont inquiets du comportement de leurs voisins, voisines, par exemple, mais ces policiers-là, policières-là, sont pas sur le terrain en train de lutter vraiment contre le crime organisé puis essayer de prévenir un peu plus la montée de la violence. Donc, pour Québec solidaire, exactement, c'est de à la fois agir beaucoup plus au niveau de la santé mentale à l'aide d'un service, d'un soin de santé qui est beaucoup plus fort en prévention avec les CLSC, c'est une chose, mais aussi s'assurer que laisser les policiers pouvoir vraiment travailler pour leur travail de policier, donc plus à la lutte au crime organisé. Là, je dirais que les deux vont de pair finalement, donc d'avoir plus d'interventions psychosociales dans les rues pour décharger les policiers pour faire leur vrai travail, ça fait aussi partie de nos propositions.
Au niveau de la santé mentale, vous voulez aussi, dans le fond, investir quand même massivement là, dans le système public. Là. Vous avez annoncé, ben en fait, il a été annoncé, je pense même que c'est même vous qui l'avez fait là, au courant de la fin de semaine, que vous voulez majorer les salaires des psychologues dans le secteur public. On veut embaucher 900 nouveaux psychologues. Aussi, on veut embaucher 1000 professionnels pour divers services de psychothérapie, là, sexologues, psychoéducatrices, travailleurs sociaux. C'est une mesure qui va coûter 280 millions de dollars, mais moi, je me demande, là, les 900 nouveaux psychologues, est-ce que c'est des personnes qui travaillent déjà dans le réseau privé qu'on veut ramener dans le réseau public? Ou c'est littéralement des psychologues qui terminent leurs études qu'on veut qu'ils restent dans le réseau public?
Ben, je dirais un peu des deux. Là, c'est sûr qu'on a quand même déjà perdu beaucoup de psychologues qui travaillaient du public, qui ont décidé d'aller vers le privé. Donc, tu sais, quand on dit 900 psychologues, c'est tout à fait possible, ils existent. C'est pas... qu'il faut former plein de nouveaux, il faut aller en repêcher dans d'autres provinces ou des choses comme ça. On est vraiment une province qui est quand même très riche en psychologues, mais la grande majorité ont décidé d'aller vers le privé. C'est comme une exode qui va de plus en plus. Donc, on a essayé de comprendre pourquoi les psychologues vont de plus en plus vers le privé, puis essayer de corriger la raison qui les fait s'évader vers le privé. Puis dans les raisons qu'on nous dit tout le temps, bien sûr, il y a le déséquilibre au niveau du salaire. C'est sûr que si au privé, vous faites deux fois plus d'argent qu'au public, ça se pourrait que vous soyez tenté d'aller travailler là. Mais il y a aussi toute la notion d'autonomie professionnelle. Nos psychologues, c'est des gens qui ont fait des études avec jusqu'à un doctorat, puis bon, ils aimeraient pouvoir exercer de la manière dont ils l'entendent. T'sais. Donc, peut-être si je vais avoir un type d'approche thérapeutique qui nécessite de prendre peut-être plus de temps avec le patient ou de le voir plus souvent ou pendant un certain nombre de séances et que là, le réseau public leur dit non, nous, c'est maximum, 8 séances et puis c'est maximum 40 minutes. Puis, tu sais, qu'on vient un peu imposer les règles de pratique, bien ça, évidemment, on enlève l'autonomie professionnelle puis ça peut désenchanter plusieurs personnes. Fait que ça, c'est d'une part rehausser les conditions de pratique, incluant l'autonomie, mais aussi le salaire au public pour aller rechercher ce qu'on a perdu. Mais je pense aussi que de rendre tout simplement le réseau public comme étant plus attractif de manière à ce que tous nos nouveaux diplômés aient le goût de venir au public. Et puis, c'est un servicieux notre affaire parce que moins qu'on a de psychologues au public, moins qu'on a de stages disponibles pour les gens qui étudient au doctorat en psychologie au public. Donc, si la personne n'a jamais fait vraiment de stage au public puis elle a juste vu la pratique au privé, bien, c'est bien évident qu'elle va être encore plus tentée d'aller exercer directement au privé. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais c'est tout à fait réaliste ce qu'on propose. D'ailleurs, c'est des mesures qu'on a vraiment travaillées avec la coalition des psychologues pour le réseau public. Donc, on n'a pas sorti ça de notre chapeau. On l'a vraiment travaillé avec des gens qui ont déjà réfléchi à tous ces problèmes-là avant nous.
Aussi, chez Québec solidaire, vous voulez mettre en place une assurance dentaire publique qui va être universelle et gratuite. À combien pourrait chiffrer cette mesure-là au Québec pour l'ensemble des Québécois?
C'est une excellente question. Je vais vous avouer que celle-là, je ne l'ai pas exactement en tête, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est sûr que c'est quand même ambitieux, mais tellement nécessaire parce que les gens, encore une fois, ne le voient pas. Moi, je l'ai vu beaucoup comme médecin, puis plein d'autres professionnels de la santé me le disent constamment. Une mauvaise santé dentaire, ça occasionne, ça fait des problèmes d'absentéisme, des coûts énormes pour les gens là, qui vont vivre des complications d'abcès et tout ça. Mais même, je dirais, à l'âge un petit peu plus avancé, dans les CHSLD, des gens qui, faute d'avoir accès à des traitements gratuits, font arracher des dents. Donc, on perd nos dents tranquillement, si bien que rendu à un âge plus avancé, sinon on n'a plus beaucoup de dents dans la bouche. Puis d'avoir un dentier, c'est aussi ça coûte cher. Donc, si vous voyez ce qui arrive, c'est que dans un certain âge, en CHSLD, il est vraiment pas rare de voir des personnes âgées qui ont de la misère à bien s'alimenter parce que leur santé dentaire a été laissée de côté trop longtemps. Donc, ça a vraiment des répercussions, du coup, pour la société énorme. Donc, j'ai pas le chiffre en tête, mais chose certaine, on a un retour sur l'investissement. En fait, on voit même pas ça comme un investissement, une dépense, on voit ça comme un investissement pour la qualité de vie et la santé de toutes les personnes qui, en ce moment, subissent trop de conséquences d'une mauvaise santé dentaire.
Vous expliquez, dans le fond, qu'avec ça, vous voulez, dans le fond, prévenir, dans le fond, certains risques qui pourraient se développer en vieillissant, parce que nécessairement, en vieillissant, on n'a pas nécessairement l'argent pour payer ce service-là. Pourquoi pas faire la même chose avec les services d'optométriste, là? On sait aussi que quand même, les examens de la vue coûtent de plus en plus cher. On sait que les verres aussi, pour les lunettes, c'est quand même important, là, pour avoir une bonne santé au niveau visuel, là, au niveau des yeux. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça dans votre plateforme au niveau de la santé?
Ben, c'est un excellent point. C'est sûr que, puis en même temps, ça me fait réaliser, il y a plein de gens qui me disent les médecines alternatives aussi, c'est tant que ça, je sais pas, moi, l'ostéopathie, naturopathie, l'acupuncture, il y a plein de trucs, tu sais, pour qui en ce moment sont payants, puis que ça pourrait être intéressant de le rendre plus dans une logique publique. Donc, moi, je vais jamais dire que c'est pas pertinent. Là. C'est vraiment, je pense, une histoire ici. Je sais pas si vous avez vu un peu dans l'actualité récemment. En fait, probablement que oui. Que évidemment, plus qu'on propose des trucs, on va dire, de déprivatiser des aspects de soins santé, puis en même temps faire la lutte au changement climatique, ben tout ça, ça vient évidemment avec un besoin de revenus additionnels. Donc, c'est nous à Québec solidaire, on a fait nos devoirs, puis on est allé proposer un cadre financier qui vient avec une colonne de revenus, avec des nouveaux revenus, là, surtout qui sont en lien avec des taxes pour les personnes qui sont ultra riches. Et là, ça a fait énormément jaser. Là. Les gens disaient, quoi? Vous allez nous taxer plus? Ça va nous coûter plus d'argent. Donc, c'est vraiment dans un souci de pas non plus aller trop, comment je peux dire, de générer tellement de nouveaux investissements en santé, en rendant tout gratuit, même si dans mon cœur, c'est ce que je souhaiterais. Mais d'un autre côté, vous comprenez que pour faire ça, ça nécessiterait d'augmenter plus les impôts, plus les taxes. Et là, je pense qu'il y aurait quand même cet enjeu-là d'acceptabilité sociale qui fait que ça pourrait. Déjà, on en entend beaucoup parler. Donc, c'est vraiment une histoire de choix parce que la santé dentaire occasionne énormément de conséquences sur le moyen, sur le long terme pour les gens qui peuvent pas avoir accès aux soins dentaires. Mais je suis très, très d'accord là, que tant qu'à moi, il y a plusieurs autres services là, qu'on pourrait rendre publics au bénéfice de tout le monde.
Aussi, dans le plan santé de Québec solidaire, aussi, en fait, la mise sur pied de Pharma-Québec, là, c'est pas une idée nouvelle, là, c'était déjà une idée qui était proposée à l'époque là, par le co-chef et le co-porte-parole de Québec solidaire à l'époque, M. Amir Kadir. Maintenant, dans votre plateforme avec Pharma-Québec, on veut créer une production locale de vaccins. Bon, évidemment, il y a eu la pandémie, donc on comprend pourquoi que cet enjeu-là est cité directement. Mais aussi de produire des médicaments génériques. Cette proposition-là permettrait de sauver combien d'argent aux contribuables québécois et au système de santé en tant que tel?
Encore une fois, mon Dieu, vous me posez vraiment d'excellentes questions. Je n'ai pas regardé réviser juste avant vous le cadre financier, mais mon Dieu, je l'ai sur le bout de la lèvre, mais je veux pas dire n'importe quoi. Mais oui, dans notre cadre financier, si je parlais de dépenses et de revenus, c'est sûr qu'on voit ça comme un revenu intéressant. De tout ce que Pharma Québec va nous permettre d'économiser, c'est quand même assez significatif parce que c'est bien évident. En ce moment, là, l'industrie pharmaceutique a le gros monopole, puis tout ce qui est dans une logique de libre marché, comme on le sait, contribue à augmenter l'accès, les coûts pour les médicaments, comme c'est le cas pour le coût des loyers dans le marché privé, bon, etc. Tout ce qui est à la logique du libre marché connaît les frais un peu de l'inflation. Donc, c'est exactement le cas pour l'industrie pharmaceutique. Puis nous, ce qu'on veut, c'est aller rapatrier un peu plus de contrôle sur cette logique-là du libre-marché parce que la médication, ben, c'est considéré comme un bien essentiel. Puis il n'y a aucune logique qu'il y ait une escalade de prix là, sans fin et que tout ça se fasse au profit de seulement quelques grandes entreprises et au détriment de millions de personnes dans la population. Donc, on mise vraiment, vraiment beaucoup là-dessus. On va y tenir jusqu'au bout parce que comment je peux dire, tu sais, la santé, il y a quand même du gaspillage en ce moment. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'argent qui est mis pour la médication, mais il y a beaucoup aussi d'argent qui est mis pour la rémunération des médecins. Donc, tu sais, c'est pas que c'est du gaspillage, mais ça coûte énormément cher et pendant ce temps-là, on se prive de plein de soins offerts par différents types de professionnels puis de l'accès aux soins de première ligne. Donc, tu sais, on veut essayer de rééquilibrer ça. Puis oui, Pharma-Québec est définitivement dans notre mire là, pour aller faire des économies en matière de coûts médicaux.
Aussi, dans votre plan en santé, c'est mentionné que Québec solidaire s'engage à rehausser le budget de la santé publique et à assurer son indépendance du pouvoir politique. Vous, en tant qu'ancienne directrice générale de la santé publique en Estrie, est-ce que vous trouvez que la santé publique au niveau du gouvernement a manqué de... En fait, n'était pas assez indépendante des décisions du gouvernement?
J'aime pas beaucoup dire ça parce que c'est jamais le fun à admettre, mais j'ai été les deux pieds dedans quand même assez longtemps pour dire que il faut quand même distinguer, il y a l'échelle régionale puis l'échelle nationale, donc la direction nationale avec anciennement Horatio, maintenant le Boileau. Et c'est pas les personnes en tant que telles, c'est ces deux personnes-là ont occupé le même poste qui s'appelle directeur national de santé publique, mais aussi sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et Services sociaux. Et c'est là le plus gros problème. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle régionale, chaque directeur de santé publique a quand même une certaine latitude, quoi qu'on est toujours un petit peu contraint dans ce qu'on veut communiquer. T'sais, on se fie un peu aux règles des CIUS et des CIUS. On peut pas prendre la parole quand bon nous semble. Il faut quand même se fier un peu aux règles du jeu des communications des CIUS et des CIUS. Mais moi, où est-ce que je vois le plus gros enjeu de manque d'indépendance, c'est à l'échelle nationale. Parce que vous comprenez que si on est sous-ministre adjoint, ben on relève vraiment de l'appareil ministériel. Puis en même temps, on est censé jouer le rôle de protection de la santé de la population du Québec avec le chapeau directeur national. C'est là que ça devient un peu complexe, à mon avis. Il faudrait que le directeur national de santé publique ait absolument le droit de s'exprimer sur ce qu'il souhaite dire à la population, qu'il n'y ait jamais de pression du ministère, du ministre, du premier ministre. Et ça, je me permets d'avoir des gros doutes pendant la pandémie. Moi, comme médecin spécialiste en santé publique, quand je voyais les annonces, j'avais vraiment de la difficulté à discerner qu'est-ce que, dans la mesure sanitaire ou l'annonce qui est faite, quel poids le politique a-t-il eu dans cette prise de décision-là? Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de la difficulté à faire la part des choses. Donc, je me dis que monsieur, madame, tout le monde, ça devait être probablement encore plus mélangeant. Puis c'est important que les gens aient confiance en la santé publique et comprennent que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est toujours dans le meilleur intérêt de la population et pas dans le meilleur intérêt des politiciens.
Rapidement, là, est-ce que la décentralisation des pouvoirs en santé vers les régions serait une solution à envisager?
Ben oui. Ben, en fait, il y a deux choses. Il y a la décentralisation, le poids du national versus des régions. Et ensuite, il y a à l'échelle d'une région, comme si on prend l'exemple de la région de l'Estrie, est-ce que c'est toute la région qui doit avoir des décisions mur à mur uniformes pour les différents territoires? C'est par exemple dans le coin de Quaticook versus Sherbrooke versus Mégantic, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Donc, est-ce qu'on devrait avoir même un peu plus de flexibilité pour prendre des décisions un petit peu plus locales? Donc, moi, je pense que cet esprit-là, là, de toujours aller plus vers le terrain puis laisser de place à l'innovation, de trouver de la créativité pour des solutions plus locales, plutôt qu'être dans du mur à mur puis des approches très nationales qui descendent vers le bas sans aucune possibilité de modifier quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que c'est une position que Québec solidaire a toujours et va toujours prôner. C'est la logique de la participation citoyenne, de la démocratie et tout ça, c'est super important. Ceci étant dit, on ne veut pas faire de réforme de structure. On ne veut pas, pour le moment, on ne veut pas défaire les CIUS et les CIUS parce que je pense que les gens sont juste tannés. De grosses réformes, nos employés du réseau de la santé sont fatigués, sont épuisés de la pandémie. Donc, vous comprenez, de tout aller rechanger les organigrammes, tout ça, pour le moment, on n'est pas là parce que je pense que ce n'est pas ce que la population souhaite à court terme.
Madame Généreux, je sais que vous avez un horaire très chargé, puis c'est tout le temps qu'on avait pour faire l'entrevue avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite aussi bonne continuité dans votre campagne électorale, puis bon succès pour la suite.
Ben, merci beaucoup de m'avoir accueilli, puis c'était des excellentes questions. Ça va m'amener à aller réviser mes colonnes de chiffres. Désolée, ça m'a pris un peu parfois.
Non, ben c'est bien correct, là. Merci beaucoup. Pour nos auditeurs, on s'en va en courte pause et on continue après ça notre blitz d'entrevue avec Mme Zoé Saint-Amand du Parti conservateur du Québec à Sherbrooke.
De
Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. On s'entretient maintenant avec Mme Zoé Saint-Amand, candidate du Parti conservateur du Québec dans Sherbrooke. Mme Saint-Amand, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir.
Oui, tout d'abord, c'est votre première campagne électorale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en politique?
Dans le fond, j'ai envie de répondre spontanément à un profond besoin d'agir à la suite de la situation qu'on vient de vivre dans les deux dernières années. Mais au-delà de ça, j'ai toujours été intéressée à l'actualité. Ça fait longtemps que je suis la politique, autant provinciale, nationale, internationale également. Je crois que c'est un peu notre devoir citoyen de le faire, de suivre l'actualité et puis de qu'est-ce qui est pris en décision par nos partis politiques. Donc, durant la campagne, ils nous arrivent avec beaucoup de promesses et beaucoup de solutions aux problèmes. Et puis, un coup que la campagne est terminée, je consens que tout le monde fait de son mieux et puis qu'on peut rencontrer des difficultés à la suite de ces promesses-là pour les mettre en œuvre. Mais dans les dernières années, c'est ça, j'ai remarqué une petite dérive là, au niveau de la démocratie. Et puis, en étant toujours... En ayant été une personne toujours intéressée par l'actualité de la politique, alors j'ai décidé de tenter le saut et puis de donner mon nom pour une candidature.
OK. Et pourquoi au Parti conservateur exactement?
C'est le parti qui me rejoint le plus au niveau de mes valeurs. Et je trouve aussi que les propositions qui sont données dans notre programme sont vraiment... bonne au niveau de l'amélioration des perspectives du Québec là, pour l'avenir. J'aime les idées. J'aime justement aussi les valeurs. C'est vraiment la première chose qui m'a interpellée. Et puis, on va se le dire, hein, notre chef, M. Éric Duhaime, a été une voix pour une partie de la population qui a été... je vais utiliser le mot ignoré, mais c'est peut-être un peu plus que ça durant la période pandémique.
Dans votre discours... d'investiture, vous parliez de liberté académique. Vous êtes étudiante à la maîtrise. En tant qu'étudiante, est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous auto-censurer ou que les professeurs s'auto-censurent à l'Université de Sherbrooke?
Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais si ça se passe dans d'autres universités, est-ce qu'on peut se poser des questions qu'un jour ou l'autre, une personne ici à l'Université de Sherbrooke pourrait vivre une telle situation? Mais je dois dire également que ma maîtrise, je l'ai faite de type cours, alors je n'ai pas eu à faire la recherche pour faire un mémoire. Donc, j'ai probablement été moins confrontée à cette situation-là. Et puis, voilà, non, à Sherbrooke, je suis vraiment... j'ai toujours été satisfaite de notre université et puis de ce qu'on voit se faire ici. Mais je pense que c'est important que cet enjeu-là soit relevé, notamment au niveau de la population québécoise, parce que ce qui est arrivé, là, notamment dans mon discours d'investiture, je faisais référence à la situation avec M. Patrick Provost, un professeur qui s'est basé sur les chiffres provenant de l'INSPQ et des données gouvernementales pour produire un article. Et puis par la suite, il y a eu une sanction qui a été extraordinaire, soit un 2 mois de congé sans solde. Moi, en tant que citoyenne du Québec et en tant qu'étudiante, j'ai été très interpellée, touchée par cette situation-là et je dois dire, premièrement, ça n'aurait pas dû arriver et deuxièmement, on doit s'assurer que ça ne se reproduise pas nulle part ailleurs. J'ai également rencontré un étudiant international cet été et puis lui, il me parlait justement des enjeux au niveau là, de la recherche où est-ce que des fois on sent qu'on doit répondre à une... ou qu'il y a une direction qui est donnée pour un travail. Et puis, considérant qu'il y a des bourses qui sont rattachées à ça, on peut facilement se retrouver dans une situation qui vient un peu entrer en conflit là, avec soi ou avec les demandes qu'on doit produire pour pouvoir conserver cette source de revenus-là. Alors, je crois que ça vaut la peine, là, justement, qu'on se penche à cette situation-là.
Pensez-vous que la liberté académique est en danger, comme dans les dernières années? Ou...
Je vais dire que pour l'instant... j'ai envie de dire, je ne veux pas répondre par un oui ou par un non, mais je vais plutôt répondre par vous, les étudiants, est-ce que vous sentez que la liberté académique est mise en danger? J'aimerais entendre les gens à ce sujet-là. Est-ce que c'est un sujet qu'on a vraiment, qu'on s'est penché dessus dans les dernières années? Souvent, ça l'a pas vraiment ressorti. Je crois que c'est plus vraiment la situation de M. Patrick Provost qui a mis à la lumière cet enjeu-là. Donc, d'aller sonder le terrain et puis voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Comme je vous ai dit, moi, personnellement, j'ai pas eu affaire à faire des demandes pour des recherches, des bourses de recherche. Alors, il manquerait d'informations, mais je serais curieuse d'entendre les étudiants là, à ce sujet-là.
Dans votre une autre chose que vous disiez dans votre discours d'investiture, c'est que l'État doit être au service des Québécois et Québécoises et non l'inverse. Qu'est-ce que vous attendiez par là?
Tout d'abord, j'ai envie de ramener un peu le principe d'une entreprise. Lorsqu'on est employé, que c'est notre patron qui nous paie, on fait ce que notre patron nous demande. Présentement, les patrons du gouvernement, c'est les citoyens et les citoyennes, c'est nous qui payons leur salaire, à même nos taxes et nos impôts. Toutefois, quand est-ce qu'on se sent entendu par la classe politique? Moi, ça m'est jamais arrivé de me sentir interpellée. Pourtant, je suis quand même à l'affût de l'actualité. J'ai également envie de rajouter que les solutions à des problèmes complexes ou qui touchent particulièrement une circonscription, une région, les meilleures personnes pour donner les solutions à ces situations-là, c'est les gens qui sont impliqués directement. Et puis souvent, par l'inverse, ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est comme le gouvernement semble donner des programmes ou des solutions, des subventions, mais que les gens, ils doivent répondre à des critères pour pouvoir avoir accès à ça, pour pouvoir mettre en place la solution qui vient du gouvernement. Mais si la solution que l'acteur sur le terrain voit n'est pas exactement la celle du gouvernement, il n'y aura pas accès à cette subvention-là. Donc, la meilleure solution n'est pas directement implantée. On doit tout le temps attendre après que le gouvernement nous donne les outils pour pouvoir le faire parce que c'est eux qui vont donner les fonds, les sources monétaires pour pouvoir les mettre en action.
Maintenant, on va discuter un peu plus de la plateforme du Parti conservateur en tant que tel. Là, le Parti conservateur veut réduire la taille de l'État. De quelle manière on veut réduire la taille de l'État? Je sais qu'on parle beaucoup de privatisation du système de santé, là, entre autres, mais de quelle manière on veut réduire la taille de l'État?
D'abord, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts ou qui se fait rapidement. Là. C'est un plan qui doit être étalé sur probablement court, moyen, long terme. Je tiens aussi à amener que durant la gouvernance Legault, M. Legault avait mis en promesse qu'il réduirait la taille de l'État. Toutefois, ce qu'on a vu, c'est une augmentation de quelques milliers de fonctionnaires de plus qui sont ajoutés à la fonction publique. Alors, j'ai envie de dire, pour pouvoir réduire la taille de l'État, eh bien, l'un des moyens qui va servir le Parti conservateur, c'est qu'on prône beaucoup la décentralisation et puis d'enlever de la bureaucratie. Alors, si on a moins, les pouvoirs sont plus centralisés vers les régions, on a besoin de moins d'intermédiaires pour se rendre à la salle, à l'Assemblée nationale et puis amener ces idées-là pour partir d'un ministère vers un autre et puis faire la chaîne vers le haut. Alors, en enlevant, justement, en réinversant un peu la tendance, eh bien, on a besoin de moins d'intermédiaires, ce qui fait en sorte qu'il va nous aider à réduire la taille de l'État. Aussi, en enlevant de la bureaucratie, on a besoin de moins fonctionnaires pour pouvoir revoir aussi tous ces formulaires-là, prendre des décisions, les amener à leurs supérieurs. Ça peut être une autre façon aussi de le faire. Donc, c'est vraiment un programme qui s'en va dans un tout et puis qui, à la fin, en utilisant quelques petites mesures ici et là. Puis, je tiens à dire qu'on ne veut pas dire aux gens qu'on veut enlever des emplois là, à des personnes, ni mettre de l'austérité comme qu'on l'a vu avec le gouvernement Couillard. C'est vraiment pas ça. Et puis, mais il y a peut-être une mesure qui a été faite dans ce temps-là qui pourrait servir encore, par exemple, si une personne part à la retraite et puis qu'on voit qu'il n'y a pas autant de besoin de support pour la remplacer, bien peut-être qu'on peut couper un de ces postes-là. Et puis aussi, avec le télétravail, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui travaillent maintenant de la maison. Ceci, ça diminue aussi certains besoins au niveau des bureaux. Et aussi, j'ai parlé justement avec une de personnes qui travaille dans un ministère qui est en lien avec l'informatique et puis qui disent on a moins de demandes parce que justement les gens travaillent de la maison. Alors peut-être aussi revoir là, les impacts de cette nouvelle réalité-là du travail et puis comment qu'on peut utiliser cette situation-là pour minimiser la taille de l'État.
Est-ce que la réduction de la taille de l'État veut nécessairement dire aussi réduction des services publics que le gouvernement
Absolument
va faire?
Absolument pas. Vraiment pas. de pouvoir faire en sorte que les gens puissent avoir accès aux services, ça demeure numéro un, même que dans nos visions, ces services-là qui sont déjà offerts par l'État, on veut les conserver, on veut les bonifier, mais aussi on voudrait ouvrir la porte à faire en sorte que ces services-là puissent être donnés par les gens qui sont directement sur le terrain. Alors, je pense je pense par exemple à l'État présentement qui s'occupe beaucoup des logements. Mais si qu'on enlève un peu de l'État à ce niveau-là et puis qu'on remet le pouvoir et puis les décisions dans les mains des bâtisseurs, alors on espère qu'en faisant, parce que justement les gens qui bâtissent et puis qui sont justement dans le domaine de la construction et dans l'élaboration des logements vont probablement pouvoir donner des meilleurs services parce qu'ils sont directement sur le terrain. Alors, présentement, on attend beaucoup sur des listes d'attente là, pour avoir accès à des logements. Eh bien, redonnons l'expertise dans les mains qui sont directement là et puis des gens qui peuvent directement agir et puis s'assurer que les gens aient accès à des logements beaucoup plus rapidement là, que d'attendre après le gouvernement. Donc, j'espère que ce faisant, on va même pouvoir améliorer l'accès à des services.
Est-ce que privatiser des sociétés d'État pourrait faire partie de la réduction de la taille de l'État?
Par privatisation des services, est-ce que vous voulez dire surtout le système de santé qui est un de nos grosses mesures qu'on veut amener?
Bien, ça peut être sociétés d'État, ça s'en englobe aussi tout ce qui a rapport avec la SAQ, Hydro-Québec. C'est ça que je veux dire par société d'État. Là, c'est en fait des entreprises qui appartiennent au gouvernement. Là.
OK. Donc, pour l'instant, le programme n'amène pas des spécificités à quelle société d'État. Alors, à votre question, je vais répondre que je n'ai pas la réponse comme telle en ce moment-ci. Le parti sort avec des nouvelles, nouveaux communiqués ou autres, mais pour l'instant, je ne crois pas que ça soit dans notre vision d'avenir. Mais oui, privatiser, entre autres, notamment le système de santé, qui est qu'une instance de l'État là, pour l'instant.
En parlant de société d'État, justement, est-ce qu'il y aurait comme projet, par exemple, de mettre fin au monopole de la SAQ dans la plateforme du Parti conservateur?
Oui, on a reçu un communiqué justement à cet effet-là. Et puis, veuillez excuser là, je m'en rappelle pas exactement au complet ce que le communiqué indiquait, mais c'est toujours disponible sur notre site web du Parti conservateur. Et puis, en effet, c'est même un peu un gros bon sens de vouloir mettre fin au monopole de l'État à une société comme la SAQ. Pourquoi aller entraver les producteurs québécois, les PME, les gens qui veulent se lancer dans ce milieu-là? Puis j'avais même lu un article, hein, c'était par rapport aux microbrasseurs qui souvent, ils voyaient qu'ils étaient pour avoir une hausse de leurs produits. Je pense que c'est une nouvelle taxe qui était pour être amenée, donc ça leur coûtait plus cher aux producteurs québécois de mettre leurs produits sur une tablette de la SAQ qu'un producteur qui vient d'ailleurs, comme de France ou d'Italie. Pour moi, cette situation-là est carrément inacceptable. Et puis, au Québec, ici même, à Sherbrooke, on a les Ciboires qui sont des microbrasseurs de qualité. Donc, faisons la promotion de leurs produits, donnons-leur la place, donnons-leur l'espace, donnons-leur la capacité de le faire, ouvrons les lois pour qu'ils puissent s'afficher plus facilement, plus librement.
Juste une petite question, Phil. Comment vous placez-vous dans une situation où est-ce que vous représentez le Parti conservateur du Québec et qui, justement, amène des idées de privatisation, par exemple, des sociétés ou seulement limiter l'influence et le monopole des sociétés comme la SAQ, même des systèmes de santé qui, veut pas, fait l'objet d'un héritage fort ici au Québec? C'est quasiment notre identité. Nos services publics au Québec, ça s'est construit avec le temps et pour beaucoup de Québécois, Québécoises, c'est une question de fierté. Comment vous positionnez là-dessus vous arrivez avec les gens et vous dites, ben nous, on tasse ça de là et on recommence d'une autre façon notre système qu'on a construit de Québec. Je sais pas si je suis clair dans ma question, mais c'est quand même un champ gauche de la part d'un parti de réaliser ce genre de politique, puisque justement, ben, on est une société de gauche ici au Québec, puis nos systèmes publics, c'est important pour nous.
Oui, eh bien, en effet, le but, c'est pas de sabrer dans tout ce qui a été fait et tout ce qui fait la fierté d'être Québécois. Même que notre vision, c'est de ramener de la fierté, de ramener du pouvoir au Québec. Et puis, j'ai envie de dire, tu sais, pour les services qu'on offre, malheureusement, et puis moi, c'est une des, aussi des raisons que je prends pour le Parti conservateur, c'est que la plupart de ces services-là, la plupart de ces programmes-là, c'est plus un accès direct aux services ou aux programmes. Je pense simplement au CPE. C'est un accès à une liste d'attente. On a plein de services et puis on n'arrive pas à livrer la marchandise. Il y a peut-être un peu trop de présence de l'État, un peu trop de bureaucratie. Et puis, ma vision du Québec, c'est que ce qui est vraiment notre fleuron, c'est les PME. Et puis, les PME, on oublie les multinationales. Là. C'est pas de ça qu'on parle. On parle des entreprises qui sont dirigées directement par des Québécois, des Québécoises, des travailleurs autonomes qui donnent énormément de temps pour monter une entreprise. Et puis, qui là, on a vu dans les deux dernières années, ont subi un sort vraiment triste là, à travers la pandémie, parce que souvent, ces PME-là, qui sont aussi notre moteur économique, se sont fait fermer puis qui sont présentement là, en difficulté financière. Moi, en tant que citoyenne, je crois qu'on devrait vraiment... là, j'ai le mot applaudir, là, excusez-moi, mais c'est pas ça du tout, mais on devrait vraiment aider les CPME-là à pouvoir justement grossir, fleurir, avoir une plus grande place. Ça fait partie de beaucoup d'employeurs sur le territoire et puis c'est au monde, ça permet aussi de fleurir, hein, par exemple, puisqu'on peut sortir des nouvelles technologies, sortir des nouveaux produits. C'est les produits de l'érable, c'est les acériculteurs qui les produisent, c'est pas l'État. Pourtant, ça fait une de nos renommées mondiales et puis on est reconnu pour ça. Alors, je crois que les gens devraient être beaucoup plus valorisés, les PME aussi, puis les travailleurs autonomes. On devrait leur laisser une plus belle place parce que j'ai l'impression des fois quand on parle de grosses entreprises ou du privé, on associe facilement avec ces grosses-là multinationales là, qui viennent ici et puis qui s'accaparent là, d'un secteur. Mais il faut aussi tenir en compte là, que souvent dans le privé, là, c'est pas ces grosses entreprises-là qui ne font qu'un petit pourcentage d'employeurs. C'est surtout les PME de moins de 500 employés, les travailleurs autonomes encore.
Un autre élément de la plateforme du Parti conservateur, c'est le développement des hydrocarbures. Mm-hmm. En temps d'urgence climatique, comme par exemple déclaré par le dernier rapport du GIEC, est-ce que c'est un peu comme irresponsable de vouloir développer les hydrocarbures alors qu'il n'y a pas vraiment de cible de réduction de GES dans le programme du Parti conservateur?
Mm-hmm. J'ai envie de commencer d'abord par dire... lorsque moi-même, j'ai vu cette mesure-là, j'ai eu un certain recul parce que la réflexion que vous venez de dire, moi aussi, je l'ai, puis je me sens vraiment concernée par l'environnement et je crois que tous et toutes, on doit faire des efforts, les pays aussi, on doit faire des efforts pour les provinces aussi, pour pouvoir contribuer au mieux-être là, de l'environnement. Par contre, en ce moment même, cet hiver, en Europe, il y a trois usines de charbon qui vont devoir reprendre la fonction pour pouvoir réchauffer les gens de leur peuple. Si qu'ici au Québec, on exploiterait nos hydrocarbures, on aurait pu éviter ça. T'sais, l'environnement, là, on est beaucoup dans la mondialisation, on a beaucoup d'échanges avec les autres pays. Alors, à un certain point, je crois que cette question-là doit être aussi vue d'une façon mondiale et globale. Donc, est-ce que le Québec aurait pu aider d'autres pays à réduire, eux, leurs émissions de GES? On aurait pu. Puis, cette GNL Québec, c'était une promesse qui avait été faite au début, là, durant la campagne électorale de la CAQ. C'est donc pas une idée si farfelue que ça. Par contre, j'ai envie de dire que je crois quand même qu'on peut faire mieux. Nous, ici, à l'Université de Sherbrooke, sur notre campus, on a une faculté de génie, une faculté de sciences, une faculté d'environnement. Et puis, ça vient avec un peu notre ligne de parti où est-ce qu'on veut redonner le pouvoir aux gens d'agir et puis de trouver des vraies solutions. Est-ce qu'on pourrait utiliser le génie qu'on a ici même sur le campus pour trouver des meilleures alternatives et puis d'avoir la chance de les mettre en œuvre? Est-ce qu'on peut se sortir un peu de ce cycle-là? Si oui, il faut le faire quand même intelligemment et puis un pas à la fois. On s'entend là, que les hydrocarbures, ça touche à tout. Hein? Puis dans un dans un monde où est-ce qu'on dépend beaucoup des autres pays pour recevoir même notre nourriture, notre matière première, ça prend des gros bateaux pour les faire exporter ou importer tout ça. Il y a les avions, la tondeuse, les souffleuses, même les déneigeuses l'hiver. Donc, malheureusement, le pétrole... Et puis, il y a plusieurs produits dérivés du pétrole aussi. Hein. C'est pas juste l'essence qu'on met directement là, dans notre voiture. Ce produit-là, matière première, là, se décante là, en plusieurs produits qu'on utilise couramment. J'ai même envie de dire qu'on en ingère. Hein. Je fais juste penser aux gélules là, qui attrapent des médicaments ou des comprimés. C'est fait à une base de pétrole. Alors, on en a besoin. Et puis, il faut trouver une façon de justement, mais d'arriver là, du jour au lendemain et de vouloir tout cesser la consommation. Il faut qu'on ait un plan là, pour la suite, là, pour voir comment qu'on va pouvoir continuer à fonctionner en société. Alors, c'est ça que j'avais à dire à ce sujet-là. J'ai envie d'envoyer le défi ou d'ouvrir même, ici même sur le campus, trouvons une façon, une vraie solution là, qui va pouvoir faire en sorte que le Québec puisse ressortir économiquement plus fort de l'implantation de ces mesures-là et puis qu'on puisse aider vraiment toutes les gens autour de la planète. Alors, voilà, je crois qu'on peut y arriver. Mais des fois, si vous me permettez, il y a du lobbyisme là-dedans aussi. C'est une question vraiment complexe. Il y a des emplois de plusieurs personnes. Il y a des camionneurs, comme je vous ai dit. Il y a des bateaux, des avions. C'est gros, là, cette question-là. Là. C'est pas juste une situation à un facteur. Et puis, pour le bien-être de tous, je pense qu'on doit avoir des solutions plus qui pourraient mieux aider les gens. Mais là, je m'enfarge un peu dans mes mots, alors on peut passer.
En conclusion, je vais discuter d'un thème qui est dans votre plateforme, mais qui est peu abordé, qui est peu mis de l'avant. Celui de la langue française, qu'est-ce que le Parti conservateur propose pour, en fait, l'immigration, la langue française et tout ce qui entoure cette question-là, qui est quand même beaucoup politisée par certains partis politiques?
Mm-hmm. La langue française, c'est vraiment la base hein, de notre identité, de notre culture québécoise. Donc oui, absolument, c'est quelque chose qu'il faut protéger, qu'il faut valoriser et puis qu'il faut s'assurer de conserver. Alors, ce que notre parti propose, eh bien, je pense que vous avez tous vu là, lorsque notre chef s'est soulevé contre la loi 96, c'est ce qu'on veut dire aux gens, c'est oui, on protège notre français, mais on n'a pas besoin d'aller mettre des lois qui vont nuire à d'autres gens de la population qui parlent une autre langue. Celle-ci visait beaucoup, je crois que les Anglais, et puis ça a causé beaucoup d'inquiétude là, à cette population-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Je crois pas. Pour ce qui est au niveau de l'immigration, nous, ce qu'on propose, et puis c'est aussi en lien avec la conservation de la langue française, c'est qu'on reçoit plusieurs personnes issues de l'immigration, et puis on se rend compte que le processus de francisation est long, fastidieux et difficile, et souvent même après 5 ans, certaines de ces personnes-là n'arrivent pas à être francisées suffisamment pour pouvoir devenir un acteur actif sur le marché du travail et puis s'introduire là, dans notre société. Souvent, ces gens-là, ils vont quitter le Québec. Alors, ce qu'on aimerait faire, ça serait de rapatrier les pouvoirs du fédéral pour les ramener ici au Québec et puis pouvoir faire une immigration en fonction de certains critères. L'un de ces critères-là, ça pourrait être la connaissance de la langue française au préalable avant de venir ici directement au Québec. Je crois que ça peut être une autre mesure parce je ne veux pas dire on dépend, mais on voit beaucoup là, l'immigration comme une réponse à la main-d'œuvre ou à notre problématique au niveau du manque de main-d'œuvre. Mais ça prend un certain temps. Puis pourquoi pas valoriser l'immigration des gens qui parlent directement l'anglais, le français, excusez-moi, pour faire en sorte qu'ils puissent nous aider directement à leur arrivée et puis faciliter aussi l'insertion là, dans notre milieu. Puis également, pour ces gens-là qui vont venir, ça va être plus facile pour eux. Hein. Faut pas juste penser à nous, faut aussi penser à ces personnes-là qui arrivent d'un autre pays, d'une autre culture, et puis c'est tout nouveau pour eux. Ils ont perdu leurs repères, ils ont moins de contacts, ils ont moins de liens, ils doivent apprendre une nouvelle langue, se retrouvent en situation de précarité financière. c'est moins facile pour eux aussi de s'insérer sur le marché du travail. Alors, je crois qu'on peut aider également les gens à être mieux, puis à s'insérer plus facilement en faisant des choix plus judicieux au niveau de notre immigration, puis en se rapatriant justement ces pouvoirs-là.
Madame Saint-Amand, merci infiniment pour votre temps. Puis pour la suite de la campagne, on vous souhaite la meilleure des chances en vue du jour J du 3 octobre.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'être ici dans vos magnifiques studios. Vraiment, là, c'est super.
Merci beaucoup. Chers auditrices, nous sommes en courte pause et au retour. On continue encore une fois avec notre blitz d'entrevue avec les candidats de la région de Sherbrooke. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 83. Ça part ici. Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. À l'instant même, on va vous présenter une entrevue que nous avons préenregistrée vendredi dernier avec la candidate de Sherbrooke pour la Coalition Avenir Québec, Mme Caroline Saint-Hilaire. C'est une entrevue d'ailleurs que Marc-Olivier a réalisée seule pour l'occasion. Donc, en espérant que vous appréciez cette entrevue. Donc, à tout de suite.
En ce moment, on s'entretient avec Mme Caroline Saint-Hilaire, qui est la candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Sherbrooke. Bienvenue, Mme Saint-Hilaire, à l'émission.
Merci de l'invitation.
Donc, avec vous, on va discuter un peu de votre parcours brièvement, puis ensuite, on va discuter avec vous de quelques enjeux de votre plateforme, puis ensuite, des enjeux à Sherbrooke. Premièrement, pourquoi avoir choisi la Coalition Avenir Québec pour se présenter de nouveau en politique?
Ah, c'est une très bonne question. En fait, essentiellement parce que la force de la Coalition Avenir Québec, c'est de pouvoir regrouper dans le fond, de pouvoir parler autant d'identité, de fierté que d'économie. Et je trouve ça particulièrement porteur pour moi et c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de revenir en politique. Pendant longtemps, les autres partis, que ce soit le Parti libéral ou le Parti québécois, et même parfois Québec solidaire, on a voulu confronter un peu les deux questions, à savoir que soit un parti parlait davantage de fierté, d'identité, un autre parlait davantage d'économie, développement économique, mais jamais un parti n'aura parlé de façon aussi pragmatique, aussi efficace, aussi intensément de ces deux enjeux-là. Alors, ça m'habite, ça m'anime et je vous cache pas, surtout en pleine crise d'inflation où les gens de Sherbrooke ont de la difficulté à joindre les deux bouts, ben justement, quand on leur propose des actions concrètes au niveau du développement économique, je trouve ça particulièrement stimulant, sans jamais renier qui on est, notre langue, notre culture. Alors, c'est essentiellement la première raison. Il y en aurait plein d'autres, honnêtement. Mais c'est aussi des plein d'autres valeurs qui me rejoignent. Moi, je suis une fille qui aime les résultats. Je viens en politique pour servir, bien sûr, Sherbrooke. Je veux mettre mon expérience à contribution des gens de Sherbrooke. Je m'en viens pas faire du militantisme. Je m'en viens pas défendre des valeurs idéologiques. Je veux vraiment apporter mon soutien, notamment, bien sûr, bon, aux étudiants qui nous écoutent, aux jeunes, aux moins jeunes, aux organismes communautaires, aux gens d'affaires, aux différentes institutions qui sont sur leur territoire. Alors, je partage les valeurs de la Coalition Avenir Québec, là, qui sont essentiellement, dans le fond, de livrer ce qu'on a promis.
On le sait que la Coalition Avenir Québec, c'est une coalition, donc des gens qui, nécessairement, ne doivent pas penser pareil. Pour vous, c'est quoi votre définition de la coalition? Puis, comment cette définition-là de la coalition peut se traduire dans l'avenir du Québec? Je sais que c'est un jeu de mots avec le nom du parti, mais oui. je trouve ça intéressant de vous entendre là-dessus.
Ben oui, puis je suis contente qu'on aborde cette question-là, parce que souvent on parle de la CAQ. Moi, j'aime beaucoup plus parler de la Coalition Avenir Québec. Tout est là dans ce titre-là du parti, vous l'aviez bien dit, parce que oui, c'est une coalition. Il y a des gens peut-être un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, mais bon, la gauche et la droite au Québec, je trouve que ça finit pas mal souvent par se ressembler, à part certaines peut-être extrémités, là, mais essentiellement, à la Coalition Avenir Québec, il y a vraiment des différentes façons de penser, mais ultimement, l'objectif, on a tous le même objectif, c'est de servir le citoyen. On a toujours le même intérêt, c'est défendre le Québec. Ultimement, c'est vraiment ça. Et oui, il y a des gens de tout horizon. Il y a des gens qui sont issus du milieu communautaire, de l'enseignement, du droit, des affaires. Il y a vraiment des gens de tout horizon. Donc, oui, c'est une coalition. À venir, parce qu'effectivement, on s'en va pas en politique pour garder le train passé. On s'en vient en politique parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on veut que l'avenir soit porteur. On veut que nos enfants soient dans une belle société que le Québec puisse contribuer. Donc, c'est super important. Puis, ben, parce que c'est le Québec. Coalition Avenir Québec, Québec, parce que c'est notre allégeance, notre seule allégeance qui est envers le Québec.
Parfait. Je vais revenir peut-être un peu sur un élément de votre réponse. Ça serait quoi peut-être le projet de société que vous prônez à la CAQ? Vous, je sais que vous avez parlé de nationalisme tantôt, mais de projet de société, un projet qu'on peut voir à long terme puis que tous vont être inclus à l'intérieur?
Bien, un des grands projets, je pense, c'est M. Legault qui l'a annoncé en pleine campagne électorale parce que on parle beaucoup de changement climatique et ça préoccupe tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. On veut tous y contribuer, on veut tous faire notre part. Et M. Legault, quand il a annoncé justement son grand chantier pour la transition économique, économique, c'est intéressant même de parler des deux, justement de joindre le développement économique avec les changements climatiques, de ne pas les opposer. Moi, je comprends bien là, qu'on a des défis importants au niveau des changements climatiques, mais je suis pas du genre à croiser mes bras puis à dire, ben c'est grave, il y a une crise, et de crier et de m'indigner. Moi, je veux trouver des solutions et j'aime à penser qui dit crise dit opportunité. Et tout d'un coup, que dans cette crise climatique, il y aurait des opportunités pour le Québec, justement, avec son électricité, qui est une énergie propre, entre autres, là, il y en a d'autres, là, mais l'électricité, on le sait, là, c'est la marque de commerce du Québec. Ben, si on se servait de cette énergie-là pour propulser le Québec, pour propulser Sherbrooke aussi, il y a plein d'innovations qui se fait à Sherbrooke. Ben, moi, je pense que ça commence à ressembler à un beau projet de société de dire qu'on se transforme pas en victime face au changement climatique, mais on se transforme en leader. Le Québec se positionne en disant on a une énergie propre, on va justement faire davantage d'électrification et on va vendre notre électricité, on va construire des barrages. Et éventuellement, je pense que ça peut devenir sur le plan autant du fait qu'on veut devenir carboneux que de dire ben on contribue à l'ensemble de la diminution des GES planétaires parce que on va se dire là, on pourrait tous demain matin, c'est un peu ce que Québec solidaire souhaite, retirer tous les véhicules au Québec, tout faire les efforts dont Québec solidaire voudrait qu'on fasse, punir les Québécois constamment, taxer les Québécois, ça réglerait pas le sort mondial, le sort de la planète des changements climatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il faut en faire. Puis on a déjà commencé dans le cadre du dernier mandat à la Coalition du Québec, notamment au niveau des consignes, au niveau des bouteilles, au niveau du recyclage, du compost. Les municipalités font beaucoup d'efforts. Au niveau de l'électrification des différents transports en commun. Donc, il y a plein de mesures déjà concrètement. Oui, il faut faire ça, mais il faut aussi transformer cette crise-là pour que le Québec là, puisse tirer son épingle du jeu.
Mais moi, quand je regarde votre plateforme à l'environnement, là, mis à part là, la création du Fonds bleu là, qui est là pour protéger nos lacs et nos rivières, là, quand on compare justement avec la plateforme du Parti québécois ou même celle de Québec solidaire, on pourrait presque dire que votre plan manque peut-être d'ambition pour l'avenir. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça?
Ben, c'est-à-dire sur quelle perspective on peut penser qu'on manque d'ambition? Le problème souvent, puis on va se dire... c'est facile dans l'opposition de promettre 50 000 logements, de promettre 80 000 immigrants, de promettre qu'on va atteindre nos cibles en GES. Dans la vraie vie, là, c'est jamais arrivé qu'un gouvernement respecte ses cibles. Moi, je préfère des actions concrètes, des engagements concrets, réalistes, que de promettre des choses qui n'arrivent jamais. Ça fait combien d'élections qu'on entend parler qu'on va régler la situation en santé? C'est la première fois qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous voulez vraiment des partis politiques qui constamment vous disent savez-vous quoi? On va atteindre nos cibles. Vous y croyez vraiment? Ça n'arrive pas. Et plus que ça, dans la vraie vie, là, le Québec est une province parmi d'autres au Canada. Le Québec seul, même si demain matin, on faisait tout ce que les 5 partis politiques souhaitent, ça ne réglerait pas le sort du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Puis possiblement qu'il y a des bonnes mesures proposées par l'ensemble des partis. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire, oui, notre effort sur le plan individuel, on va faire notre effort sur le plan du gouvernemental, mais on va aussi transformer ça en opportunité. Et c'est là où je trouve que c'est majeur comme différence, parce que on est dans, bon, vous parlez du Parti québécois, il y a Québec solidaire, ils sont dans davantage dans la taxe, dans la décroissance, dans la fermeture d'entreprises. Je veux dire, on est complètement ailleurs. Est-ce que vous pensez vraiment que la population de Sherbrooke va nous suivre dans cette stratégie-là? Moi, je pense pas. Les portes que je frappe tous les jours, les gens à qui je parle tous les jours, ils ne sont pas là du tout. La réalité, c'est qu'il y a encore des familles qui ont 2 voitures. Déjà, c'est un défi, mais 1 voiture, 1 VUS, 2, 3 enfants, 1 chien. Et là, on leur dit, ben, on va vous taxer si vous continuez d'utiliser des voitures comme ça. Je pense pas qu'en punissant les Québécois, on avance d'une quelconque façon. Oui, il faut s'adapter, il faut transformer notre façon de faire, mais pas punir les Sherbrookeois.
Je vais revenir sur quelque chose que vous avez mentionné, parce que ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille, là, vous avez mentionné, c'est jamais arrivé qu'un gouvernement respecte ses cibles. Pourquoi alors qu'un gouvernement devrait faire des cibles? T'sais, vous avez des cibles de réduction de GES, là, c'est 37,5% d'ici 2050. Pourquoi avoir des cibles?
Ben, parce que c'est un engagement, notamment international, puis il y a des attentes à ce niveau-là. Mais quand vous parlez du Parti québécois qui parle de, je pense que c'est 55% des cibles.
Mais moi, je parle pas du Parti québécois. Moi, je parle de ce que vous avez mentionné. Puis parce que moi, je vous repose la question par rapport à vos cibles.
C'est ça. Mais en fait, nous, nos cibles sont plus réalistes. Parce que c'est vous qui m'avez amené sur l'engagement du Parti québécois. Vous disiez, bon, leur plateforme est plus audacieuse, vous promettez 55% au niveau des cibles de GES. Nous, ce qu'on dit, c'est que...
Ça, c'est Québec solidaire, Mme Saint-Hilaire.
Je reprends votre question de tout à l'heure. C'est ça que vous m'avez dit tantôt, là.
Ah oui, non, mais c'était à titre d'exemple pour la plateforme de PQ, PQS.
Je faisais du pouce sur votre question. Nous, notre engagement, c'est de réduire les GES à 37,5%. Et ce qu'on veut surtout, c'est atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est s'adapter au changement climatique. Donc, c'est une vision complètement différente. Ça, je vous le concède. Mais nous, on se dit, à chaque fois, on promet d'atteindre les 55%. Ça n'arrive pas. Nous, on fait ça sur plusieurs niveaux. On pense qu'on est davantage réaliste, davantage concret et surtout davantage en phase avec ce que la population souhaite.
Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle, en fait, de votre plateforme en éducation du côté de la Coalition du Québec. Évidemment, on le sait là, que dans les derniers 4 ans de la CAQ, là, on le sait que le parti a massivement investi dans la rénovation des écoles ou même la construction de nouvelles écoles. Par contre, on voit encore aujourd'hui que l'investissement n'était pas suffisant puis il faut encore investir davantage. Dans la circonscription de Sherbrooke, il y a une école en particulier, celle de Mitchell Montcalm, que vous avez annoncée, qui va être reconstruite totalement d'ici 2026. Mais il n'y a pas juste l'enjeu de reconstruire une belle école, aussi, il y a l'enjeu de rénover aussi les autres écoles. Est-ce que votre parti va continuer d'autres engagements dans ce sens, surtout pour la circonscription de Sherbrooke?
Oui, vous avez raison de dire que on a construit davantage d'écoles de ce que le gouvernement précédent avait fait dans le cadre du dernier mandat. Et M. Legault l'a dit, là, on va augmenter le plan québécois d'infrastructure justement en éducation parce que effectivement le besoin est immense tant au niveau des écoles secondaires qu'au niveau des écoles primaires, tant au niveau de la construction que de la rénovation. Il y a l'école Mitchell Montcalm qui est annoncée, vous l'avez bien dit. Et pour les autres écoles, ben là on va voir aussi avec la municipalité quels sont leurs besoins. Il y a des besoins partout dans toutes les villes du Québec, c'est énorme. Puis je suis contente que vous posiez la question parce qu'il y a l'enjeu du béton qui est très important. Puis des fois, on envoie comme le message que c'est juste du béton, mais c'est aussi un milieu de vie. Et c'est important parce que si on veut donner le goût aux jeunes de rester à l'école, ben il faut que l'école soit quand même attrayante, invitante. Et même pour les enseignants, si on veut avoir le goût d'enseigner puis qu'on est dans des environnements, démoralisants, ça aide pas non plus. On a beau améliorer leurs conditions de travail, il n'y en demeure pas moins qu'il y a aussi des investissements à faire au niveau des infrastructures. Pour l'instant, l'engagement pour Sherbrooke, ça a été l'école Michel-Montcalm. Et on verra s'il y a d'autres demandes au niveau de la ville pour d'autres écoles. Ben, on va continuer de faire la discussion là avec les personnes concernées.
Évidemment, bon, l'école Michel-Montcalm, comme on l'a mentionné, c'est une promesse de cette élection-ci. Cependant, ça fait plusieurs années que, par exemple, le directeur adjoint, M. Carl Mercier, qui s'occupe du centre de services scolaires, mentionne que l'école est un enjeu très important pour la région. Il y a eu 3 refus le dernier temps en juin pour la reconstruction d'une nouvelle école complète. En 2020 aussi, il y a eu des investissements massifs faits en éducation, mais Michel-Montcalm a été oublié. Pourquoi faire une annonce en 2022? Il y a plusieurs de vos adversaires qui vous ont critiqué comme quoi que c'était électoraliste de faire ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça?
Ben, moi, je pense que si on n'avait pas fait cet engagement-là, qu'on viendrait avec moi, on aurait dit être déconnecté, Caroline Saint-Hilaire, parce que c'est une demande du milieu. Alors, je pense que c'est important. Ce qui doit probablement vexer les membres de l'opposition, c'est que le premier ministre du Québec en a fait un engagement personnel prioritaire pour Sherbrooke, et c'est pas rien quand même. Je pense que l'ensemble de la communauté a applaudi. Et même les 4 partis d'opposition en ont fait des engagements eux aussi. Je tiens à dire d'ailleurs qu'un engagement du Parti libéral qui ont été là pendant 15 ans n'ont jamais priorisé l'école Michel-Montcalm. Donc, je trouve ça un peu particulier de nous faire le reproche de prendre un engagement en pleine campagne électorale, parce que c'est un peu ça une campagne électorale, hein, c'est de faire des engagements pour l'avenir. Alors moi, j'arrive et je propose cet engagement-là à la demande de la communauté. Deuxième point, tout à l'heure, je faisais référence au niveau du PQI, du Plan québécois d'infrastructure. Il a été augmenté dans le cadre du dernier mandat, mais la demande était beaucoup plus grande que ce qu'on avait comme moyen financier. Malheureusement, dans le dernier mandat, l'école Michel-Montcalm n'a pas pu rentrer. Pas parce que le projet n'était pas intéressant, parce que la demande de partout dans toutes les villes du Québec était très, très élevée. Il fallait rattraper le retard du manque d'investissement des précédents gouvernements. C'est ça la réalité. Alors moi, je préfère prendre un peu de chaleur de l'opposition qui se plaint d'un si bel engagement et non pas priver la communauté de Sherbrooke d'une belle école tant attendue.
On va discuter maintenant d'un autre enjeu qui est quand même primordial à Sherbrooke pour le développement économique de la ville, même de la région. On va parler du lien Montréal-Sherbrooke. On sait que ça fait très longtemps là, que c'est dans les médias locaux ici. Là. Il y a plusieurs études même qui ont été menées par le passé là, pour la réalisation d'un train. Maintenant, là, ça devient quasi nécessaire puisqu'il va y avoir des zones d'innovation. Là, ici même à Sherbrooke, même à Bromont, on sait qu'il y en a qui parlent d'avions, de trains. Vous, Mme Caroline Saint-Hilaire, qu'est-ce que vous avez à proposer comme projet pour l'enjeu du lien Montréal-Sherbrooke?
Mais en fait, c'est pas moi qui va proposer un projet parce qu'il y a déjà 2 projets qui sont sur la table. Et je pense que c'est important de bien expliquer les 2 projets qui répondent à 2 besoins complètement différents. Il y en a qui veulent faire de l'idéologie, là, mais moi, je vais faire un peu de pédagogie. Le train, là, c'est pour répondre à une volonté de transport collectif, actif, dynamique, de dire on veut se rendre de Sherbrooke à Montréal, possiblement éventuellement plus loin, à Boston, et peu importe, mais c'est de dire point A, point B, Sherbrooke-Montréal. Ça, c'est un beau projet qui est porté par des maires de différentes municipalités, et le gouvernement de la CAQ a même financé, je pense, autour de 500 000 $ pour une étude, et donc on va attendre les résultats de la faisabilité de tout ça, mais on y croit puisqu'on a investi déjà un montant d'argent pour cette étude. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire, pour l'avion, on a un aéroport à Sherbrooke. Mais là, on parle pas de dire, on est bien conscient, que les gens vont pas prendre l'avion de Sherbrooke vers Montréal. C'est davantage Sherbrooke vers le monde. Parce que imaginez un instant qu'éventuellement, on puisse dire, ben, on part de Sherbrooke, on stationne notre voiture à Sherbrooke, on passe les douanes, et oui, il peut y avoir un vol vers Montréal, mais après ça, on s'en va, je sais pas moi, peu importe la destination, Paris, peu importe, là. Donc, c'est ça la réalité, mais c'est aussi de faire venir des gens. Vous avez parlé de la zone d'innovation. Ben, quand les gens arrivent à Montréal, à l'aéroport de Montréal, ben là, ils doivent s'en venir à Sherbrooke. S'il y avait un transit vers Sherbrooke au niveau de l'avion, ce serait beaucoup plus facile pour les entreprises, pour les travailleurs, pour les commerçants. Donc, il y a cette avenue-là qui est complètement un autre objectif. Et pour revenir sur l'enjeu du train, il y a quelque chose de super intéressant. La réalité, c'est que les rails sont pas de niveau, sont pas de niveau. J'oublie le terme là, mais sont pas de niveau pour faire passer des trains en 2022 là. J'oublie le terme exact là, mais vous me pardonnerez. Mais ça va nécessiter des investissements importants pour modifier ces rails là. Il va falloir aussi négocier avec le CP qui sont les propriétaires des rails. C'est pas chose faite pour demain matin. Alors moi, vous me demandez, j'aime les deux projets. Moi, j'ai de l'ambition pour Sherbrooke. Je pense qu'on peut mener les deux de front qui ont pas le même objectif. Je pense qu'il faut qu'on arrête de les opposer comme si, ben, on faut choisir entre les deux. Les deux sont différents, les deux sont intéressants, puis faisons-les avancer pour l'intérêt de Sherbrooke.
Donc, pour une éventuellement peut-être future députée de la CAQ ici à Sherbrooke, ça serait les deux projets qu'on pousserait dans deux objectifs complètement différents, c'est bien ça?
Exactement. Vous avez tout résumé ma pensée.
Parfait. Donc, je vais aussi discuter d'un autre enjeu aussi qui touche, je touche un peu Sherbrooke, mais qui touche aussi toutes les autres municipalités au Québec. Madame Évelyne Baudin, lors du dernier conseil municipal, a fait mention que les municipalités au Québec, il y avait un certain sous-financement puis qu'il y avait une certaine difficulté pour les villes à répondre aux besoins pour rénover ou même construire de nouvelles infrastructures publiques. Elle a fait mention pendant son discours du fait que ça serait un avantage de rapatrier 1% de TVQ pour le financement des villes et des municipalités. En tant qu'ancienne mairesse, évidemment, d'une grande ville, en fait, au Québec, le Longueuil, est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation de Mme Baudin?
Ben, pas juste l'ancienne mairesse, le gouvernement de la CAQ est d'accord, parce que c'est le gouvernement de la Coalition Avenir Québec qui a donné justement le pourcent de la TVQ aux municipalités dans le cadre du dernier pacte fiscal. Ce que la mairesse de Sherbrooke demande, c'est ce qu'on a toujours demandé les élus municipaux, et c'est le gouvernement, donc de la CAQ, qui l'a livré. Et M. Legault, justement, ce matin, faisait un discours à l'Union des municipalités du Québec et a pris cet engagement de rendre ce pourcentage-là aux villes de façon récurrente. Donc, je pense que la mairesse va être contente. L'ensemble des maires du Québec vont être contents de savoir que ça fera partie du prochain pacte fiscal. Ce sera de façon récurrente. Il faut aussi dire que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a été un des gouvernements les plus généreux avec les municipalités. Moi, je vous le dis, là, j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai rarement vu un gouvernement aussi respectueux, non seulement des compétences, mais de voir les villes comme des partenaires. C'est pas rien, là, notamment la CAQ a donné 16 millions à la ville de Sherbrooke. C'est une petite aide spéciale là, après la pandémie parce qu'il y a eu des enjeux pour les municipalités. Donc, quand la ville fait des demandes, des représentations auprès du gouvernement, moi, je pense que il y a moyen de s'entendre. Il y a des montants qui sont disponibles. Il s'agit tout simplement de présenter des projets, de travailler ensemble. Mais il faut aussi se rappeler qu'ultimement, là, c'est toujours le même contribuable. Moi, je peux bien dire que le gouvernement du Québec transfère de l'argent aux villes. Mais vous savez, là, il n'y a pas d'argent qui pousse dans les arbres, là. Je sais pas s'il y en a qui pensent ça, là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que si le gouvernement transfère 1 million, 2 millions, ben, l'argent vient des contribuables. Quand les villes prennent de l'argent, ça vient des taxes foncières, ben, c'est toujours le même contribuable. Il faut trouver des façons un petit peu plus novatrices, justement, pour que, un, les villes fassent du développement, et que les gouvernements, notamment du Québec, les gouvernements supérieurs, ben, soient en soutien aux municipalités. Et c'est dans ce sens-là là, qu'on va travailler si tant est que les gens de Sherbrooke me font confiance.
Maintenant, on va discuter de quelques enjeux de la communauté étudiante ici même à l'Université de Sherbrooke. La FEUS, en fait, a publié un document qui est public, là, d'ailleurs, sur quelques enjeux. Puis moi, En fait, on se demandait ici, à notre émission, ça serait quoi vos engagements par rapport à ces enjeux-là? On a retenu quelques enjeux, donc après ça, je vais vous demander juste de répondre si ça pourrait être soit dans la plateforme de la Coalition de Québec qu'on n'a pas vu, ou soit peut-être des enjeux que vous pourriez même vous engager à faire dans le futur.
La plateforme est disponible en ligne. Hein? La plateforme est disponible en ligne.
Oui, non, je le sais, mais des fois, on ne sait pas les prochaines annonces, on les sait pas.
Ah, oui, je comprends.
Dans ce sens-là, je sais, votre plateforme est en ligne. Je l'ai dans un onglet ouvert aussi pour m'aider.
Okay.
Donc, dans un des enjeux que la FEUS, c'est que évidemment, bon, il y a une crise du logement, puis qui touche aussi quand même les étudiants. Ça serait, mm-hmm. C'est quoi, dans le fond, l'enjeu? En fait, pas l'enjeu, mais une promesse que vous pourriez faire pour que le logement demeure quand même abordable, surtout pour les étudiants. Là. On sait que les étudiants peuvent pas nécessairement fournir une grande part de leur revenu pour se loger. On sait que Mme Labrie ici a fait même une annonce là, pour construire même des nouvelles résidences étudiantes. Là. Qu'est-ce que ça serait de votre côté?
Ouais. Mais Mme Labrie, elle peut promettre des constructions, mais la réalité, c'est que c'est pas le gouvernement du Québec qui tient le marteau. Le défi, c'est justement de travailler avec les promoteurs, travailler avec les différentes OSBL ou même avec la municipalité. Un, pour trouver des terrains. Deux, pour trouver des projets. Sinon, travailler sur le patrimoine bâti. Oui, il faut travailler pour que les étudiants aient accès à des programmes, et c'est pour ça que on a pris l'engagement que les programmes soient un petit peu plus flexibles, diversifiés, pour que les étudiants s'y retrouvent d'avoir accès notamment au logement social. Je pense qu'il faut qu'on trouve des façons que tout le monde se parle. Parce que moi, ce que je suis un peu tannée, là, c'est qu'on parle de crise du logement depuis pas mal d'années. Ça fait pas 2-3 ans, là, ça fait très, très, très longtemps. J'étais mairesse, on avait des enjeux. J'ai rencontré l'Association des locataires de Sherbrooke qui m'ont dit depuis le début des années 2000, c'est un problème. Faudrait qu'on arrête à chaque année de dire, ben, on s'y prend tôt ou tard. Est-ce qu'on peut voir le problème en amont? Est-ce qu'on peut rencontrer les gens de la ville? Le gouvernement du Québec a mis sur la table 1,8 milliard de dollars ou 1,2, excusez-moi, là, j'ai comme un doute, 1,2 milliard de dollars pour le logement. L'argent est là. Il faut juste 1,8 milliard de dollars. Je viens de voir ma note comme il faut. 1,8, excusez-moi. 1,8 milliard de dollars pour le logement. Donc, l'argent est là. Il faut que les villes travaillent avec le gouvernement. Il faut qu'ils travaillent avec les promoteurs, avec les OBNL, avec les coops, justement pour que les étudiants puissent avoir accès à ces logements-là. Et moi, c'est ça ma façon de travailler. C'est pas d'opposer, c'est pas de juste critiquer. C'est dire, ben parfait, oui, il y a un problème avec les étudiants. Est-ce qu'on s'implique davantage? Bon, je sais qu'il y a Utile chez vous. Est-ce qu'on travaille avec les résidences étudiantes? Est-ce qu'on travaille avec des promoteurs pour réserver des secteurs ou des sections pour les étudiants? Je pense qu'il faut tout mettre sur la table. Et c'est pour ça que le programme est davantage là diversifié pour donner accès à tout le monde. Parce que, bon, là, vous parlez des étudiants parce que ça vous touche, puis je le comprends. Mais il y a aussi un enjeu pour les aînés, pour les familles qui ne trouvent pas nécessairement de logement pour avoir accès, pour par exemple, quand on a une famille un petit peu plus nombreuse. Donc, ça aussi, là, c'est un défi qui n'est pas propre à Sherbrooke en passant, là, qui est important, je comprends bien pour Sherbrooke, mais c'est un enjeu important pour beaucoup de grandes villes du Québec.
Maintenant, dernier enjeu, puis ensuite, ça va être la fin de l'entrevue. On sait évidemment que le transport en commun, c'est quand même assez populaire à Sherbrooke, là, surtout pour les étudiants, parce que bon, il y a une certaine forme de gratuité puisque c'est inclus dans les frais de scolarité. Mais il y a beaucoup d'endroits à Sherbrooke où est-ce que, dans le fond, le réseau est mal structuré. Là, je pense ici plus dans l'Ouest ou même dans l'Est à quelques endroits. L'une des mesures qui est mentionnée par la FEUS, c'est que le candidat doit peut-être s'engager à mettre des mesures en place pour développer et optimiser en fait le réseau du transport commun en Estrie. C'est quoi les engagements de la CAQ ou de vous sur le transport en commun en général?
Ouais, ben en fait, le transport en commun est important. Là, nous, à la CAQ, on a quand même pris l'engagement d'investir 15 milliards là, de dollars pour le transport en commun. Mais ça aussi, ça doit se faire avec la ville parce que là, pour l'instant, la ville de Sherbrooke est en train de compléter son plan de mobilité durable. Et ça va partir de ce plan-là pour le développement du transport en commun, du transport actif. Et ça, c'est très important parce que l'aménagement du territoire, ça part de la municipalité. Le gouvernement du Québec, lui est là comme bailleur de fonds, comme partenaire financier. mais c'est à la municipalité de voir comment elle peut définir son plan de transport. Et ça, c'est important pour moi là, de respecter les compétences de la ville. Mais on sera là, là en soutien, tout dépendant des projets de la ville de Sherbrooke. Mais une chose est claire, là, il faut absolument que l'offre soit améliorée. Parce que si on veut que les jeunes, mais pas juste les jeunes, que tout le monde utilise le transport en commun, ben il faut qu'il soit agréable, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit efficace aussi. Donc, c'est ça le défi qui nous guette. Puis on le sait, on en est bien conscient. Ben, les transports, là, c'est quand même la source la plus importante d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'on y contribue. Et donc, on va voir avec la ville de Sherbrooke quel sera son plan. Et on sera des partenaires à partir de ce moment-là.
Madame Caroline Saint-Hilaire, candidate de la coalition Avenir Québec à Sherbrooke, merci beaucoup pour votre temps pour cette entrevue. Et on vous souhaite bonne fin de campagne pour les deux semaines qui restent.
Merci, à bientôt.
Bonjour à tous et à tous. On est maintenant rendu en direct. On a fini notre blitz d'entrevue. Les gars, comment vous sentez?
Comme la semaine passée, là, je commence à être brûlé.
Non, ça sert. Puis toi, Félix, excuse.
Ben, pas mal comme Marco, là. Je pense que l'énergie est passée, là.
c'est drainant, mais on a eu des excellentes entrevues avec tout le monde, sincèrement. Très content de notre travail. Bon, il y a eu des problèmes techniques à moitié de l'émission. On s'en excuse, d'ailleurs, mais bref. En espérant que vous avez, chers auditeurs, que vous avez apprécié l'émission et les entrevues que nous avons à faire et que les candidats et candidates se sont prêtés au jeu. Et on le sait, hein, chaque candidat et candidate veut parler à n'importe quel public possible. Puis on trouvait que cette plateforme à la radio, ben, était très pertinent dans le contexte de la campagne électorale 2022. Là. Je sais pas, Marco, si en semi-conclusion, tu avais un petit mot ou quoi que ce soit là?
Ben oui, mais c'est par rapport à l'entrevue avec Mme Saint-Hilaire, justement, tu sais, il y a quelques fois que j'ai quand même bégayé puis que j'ai hésité à dire certaines choses, là. C'est quand même intimidant, là, d'avoir quand même quelqu'un au bout du fil, là, qui a quand même, genre, 16 ans d'expérience en politique, plus quand même plusieurs années dans les médias. Puis, faut prendre aussi en considération que j'étais tout seul pour faire l'entrevue. Puis ça, je suis pas habitué, puis fallait que je règle aussi la technique, tout ça. Mais j'espère au moins que, en fait, les gens ont pu comprendre mes questions, puis surtout les réponses de Mme Saint-Hilaire, même si des fois c'est un peu plus, évasif, je vais dire ça comme ça.
La semaine prochaine, un autre programme très chargé pour nous. Hein? Encore une fois, 4 candidats, je m'abuse.
La semaine prochaine, c'est la dernière journée où on fait des entrevues. On va avoir Yves Bérubé-Lauzière du PQ, Christine Labrie de Québec solidaire, qui va être un pré-enregistrement. François Weiss aussi du Parti libéral, ici même à Sherbrooke, qui va être un pré-enregistrement. Sinon aussi, je crois qu'il y a...
Madame Jacinthe Caron du Parti québécois dans Richemont aussi.
Puis François... Claude Charon, excusez-moi.
Oui, du Parti libéral du Québec dans Saint-François. Donc, une méchante entrevue, une méchante journée d'entrevue encore une fois, en espérant que vous serez au rendez-vous pour nous écouter. Encore une fois, chaque lundi de 13h à 13h à 15h, 15h30, on a une exception aujourd'hui. Merci à nos boss à CFAC, on les apprécie énormément. Puis des fois, on est un peu tough sa technique, puisque bon, je pense qu'on est excité puis on est un peu fatigué. Mais une chose est certaine, on est très content d'être ici en studio pour pouvoir parler de politique, mais surtout permettre aux candidats candidates pour la campagne électorale de se laisser aller et de discuter de leur plateforme et de leurs idées pour la campagne électorale.
Oui, puis toutes les entrevues qu'on fait avec les candidats sont disponibles en ligne, là, soit en version balado sur cfac.com, je crois, si je me souviens bien, dans l'onglet des attachés de presse. Sinon, aussi sur notre chaîne YouTube aussi, vu qu'il y a plusieurs candidats qu'on reçoit en studio, on filme les entrevues, on les met sur YouTube. Là, pour l'instant, les entrevues qui ont été réalisées avec M. Philippe Pagé de Québec solidaire dans Richemont est en ligne. Aussi celle de Mme Sylvie Tanguay du Parti québécois dans Saint-François est en ligne aussi. Celle aussi réalisée avec le conservateur Danny Bernier dans Saint-François aussi. Et au courant de la journée, on va avoir celle avec M. André Bachan, qui est le député sortant de la CAQ à Richemont. Puis les entrevues qui ont été faites aujourd'hui vont être en ligne aussi d'ici quelques jours.
Donc, merci tout le monde d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de politique provinciale et québécoise. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. À bientôt.